18h-20h,
votre grand journal du soir.
Nathalie Lévy.
C'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Deux heures d'infos, d'analyse, de débat. Deux interviews à ne pas rater ce soir. D'abord, dans 20 minutes, Yoann Lemaire, footballeur et homosexuel, licencié pour ce motif de son club, sortira tout juste de la réunion sur l'homophobie à la Ligue de football professionnelle. Elle est en cours. On vous fait suivre l'événement sur Europe 1. Autre temps fort à ne pas manquer à 19h10, alors que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, est entendu par des juges à Lille. Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, s'exprime ce soir sur Europe 1. Il répondra à David Doucan. Sébastien Krepp nous a rejoint pour l'information. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
France win it 89-79 over the USA.
France win it. La France a gagné cet après-midi 89-79. Les Bleus du basket ont terrassé la Dream Team américaine, la meilleure équipe de la planète éliminée du mondial.
Exploit historique. Nous passons donc un coup de fil dans un instant au président de la Fédération française de basket sur place.
L'autre grand titre ce soir, c'est le président de l'Assemblée nationale. Chez les juges, Richard Ferrand, entendu aujourd'hui dans l'affaire des mutuelles de Bretagne.
Et puis l'inquiétude à Saint-Nazaire.
Il y a des rejets dans l'air de polluants avérés. Peut-être que c'est une accumulation de beaucoup de facteurs environnementaux qui aboutit à ces chiffres de surmortalité.
On y meurt plus, on y souffre plus souvent de cancer. Mais pourquoi? Nous allons à Saint-Nazaire dans un instant.
Et puis cette annonce, attention, soyez prévoyants Sébastien dans les transports parisiens.
Repoussez vos déplacements vendredi noir annoncé à la RATP avec 10 lignes de métro totalement fermées. 10 lignes, les bus, les RER, les métros, trafic extrêmement perturbé du jamais vu depuis plus de 10 ans.
Voilà, prenez les devants et nous on vous donne justement sur Europe 1 toutes les prévisions de trafic en détail dans un instant.
La Bourse de Paris ce soir finit en hausse de 0,44% à 5618 points.
La météo, Anissa.
Demain, c'est le grand retour du soleil pour une grande partie du pays et les températures seront en hausse.
Et le détail en fin de journal.
Europe 1.
Le commentateur américain. Il est écœuré, ce commentateur américain, dans les dernières secondes du match parce que c'est un exploit inédit pour le basket français, battre la Dream Team américaine dans un championnat du monde. Ça s'est passé en Chine cet après-midi, 89-79 en quart de finale. Écoutez, l'un des acteurs de cette victoire, Evan Fournier.
Depuis le début de la compète, on dit qu'on est venu pour gagner. En 2014, on a fait une énorme erreur et nos rêves se sont écroulés. On ne veut pas faire la même erreur. On est venu ici pour gagner, personne ne croyait en nous, c'est pas grave. Je pense que ce soir, on a montré beaucoup de détermination. Quand ils nous sont passés devant, c'était vraiment très, très, très dur parce qu'on était court physiquement. On s'est battu comme des chiens et c'est pour ça qu'on a gagné.
Le basketteur français Evan Fournier sur Canal+ tout à l'heure.
Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir.
Les Bleus sont donc en demi-finale du mondial et ils ont battu les favoris, rien que ça.
Oui, c'est la meilleure équipe de France que j'ai vue de ma vie. Ce compliment, eh bien, il est signé Greg Popovich, le coach des États-Unis, c'est-à-dire la performance XXL des Bleus cet après-midi face à la team USA. Les Français ont été immenses. Il fallait réaliser le match parfait. Eh bien, ils ont fait le match d'une vie. Alors, même s'il est vrai, il y a eu l'habitude trou d'air dans le troisième quart-temps. Les hommes de Vincent Collet ont tenu le choc solide derrière. Grâce à leur muraille de Chine, le pivot Rudy Gobert, 21 points, 16 rebonds, efficace devant avec un Evan Fournier qui a allumé les mèches, 22 points, meilleur marqueur côté français. Et ce score final qui laisse rêveur, 89-79. Les Américains restaient sur 47 victoires, 4758 jours sans défaite en Coupe du Monde.
Wow.
Et c'est la France donc qui a stoppé cette incroyable série. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, et bien grâce à la victoire de l'Australie sur la République tchèque cet après-midi, et bien la France valide par la même occasion son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020.
Voilà, festin grandiose. Merci Julien Froment. Nous sommes en ligne ce soir avec le président de la Fédération française de basket. C'est notre coup de fil de 18h.
Bonsoir Jean-Pierre Ciuta.
Bonsoir.
On le disait, exploit inédit, bravo, ça n'était jamais arrivé hein, que l'équipe de France batte les géants américains du basket. Vous êtes avec eux en Chine, quelle est l'atmosphère?
C'est magique. Ce qui est marrant, c'est que le groupe n'a jamais douté. Ils sont venus à mission ici pour aller au bout. Et même si on dit que l'équipe américaine n'est pas la grande équipe, bon, c'est une nation qui domine le basket mondial et un pied un garçon. Donc battre les États-Unis sur une Coupe du Monde, c'est magique. Et puis gagner en même temps le ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est encore une deuxième bonne nouvelle pour nous.
Bon, alors qu'est-ce qui a fait la différence, la singularité, la force de cette équipe qu'on imaginait effectivement pas battre les Américains, on ne va pas se mentir?
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a des joueurs de toute classe mondiale. Je ne vais pas tous les citer, mais on a, quand on parle de Rudy Gobert, par exemple, ou Evan Fournier, ou Nico Batum, tout ça, ce sont des gars qui sont au top niveau mondial. Ensuite, très très vite, le staff a mis en place une hiérarchie d'équipe. Tout le monde a trouvé sa place. Ce n'était pas simple parce qu'il y a eu très très peu de préparation. Et puis après, tout le monde a accepté le plan de jeu avec des gars qui sont là pour prendre la responsabilité au tir, des gars qui sont là pour défendre. Puis au bout du compte, c'est une vraie réussite.
Et c'est un vrai score, 89-79, c'est un vrai score. Ils sont en demi-finale du Mondial, les Bleus, maintenant. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous fêtez ça ou c'est plus sérieux? Est-ce que vous êtes déjà focus sur la demi-finale que vous allez jouer contre l'Argentine?
Non, mais c'est fini, on a gagné, mais on passe à autre chose. C'est l'Argentine dans deux jours, donc c'est faire les soins pour les gars, et puis faire les valises, et puis repartir. On a l'avion demain matin. Directement Pékin pour les phases finales, et puis on est déjà focus et le staff travaille déjà sur les vidéos de l'Argentine. Voilà.
Pas le temps de fêter
non,
ça.
Rigueur et concentration, bravo et merci Jean-Pierre Chuta d'avoir
merci
réagi
beaucoup
ce soir en direct au micro d'Europe 1. Le festin est grandiose, en tout cas bravo à vous. Vous êtes le président de la Fédération française de basket. Merci d'avoir réagi en direct depuis la Chine.
C'est le quatrième personnage de l'État et c'est l'autre grand titre ce soir. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a passé la journée interrogé par les juges d'instruction lillois qui enquêtent sur les soupçons de prise illégale d'intérêt à l'époque où il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Lionel Gougelot, on vous retrouve sur place à Lille. Bonsoir.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Nathalie.
Les interrogatoires se poursuivent ?
Oui, effectivement, cette audition devant les trois juges d'instruction a débuté ce matin vers 10h30. Trois magistrats chargés de ce dossier après que l'affaire eût été dépaysée l'an dernier, ici à Lille. Le président de l'Assemblée nationale est donc entendu sur des soupçons de prise illégale d'intérêt du temps où il présidait les mutuelles de Bretagne. En 2011, l'organisme avait loué des locaux commerciaux appartenant à la compagne de Richard Ferrand et avait pris en charge d'importants travaux de rénovation. Rien d'illégal dans cette opération immobilière, avait alors affirmé ce proche du président de la République, mais la révélation de l'affaire par le Canard enchaîné au début du quinquennat l'avait quand même contraint à la démission du gouvernement avant qu'une première enquête ne soit classée sans suite par le parquet de Brest en octobre 2017. Une nouvelle plainte déposée par l'association Anticor a donc conduit à l'ouverture d'une deuxième information judiciaire et donc au dépaysement du dossier ici à Lille. Et c'est la première fois que les magistrats entendent le président de l'Assemblée nationale après avoir été saisi. Il y a donc maintenant un peu plus d'un an. Ce dernier a fait savoir il y a quelques mois qu'il n'envisageait pas de démissionner du perchoir en cas de mise en examen. Son entourage laisse entendre qu'il a abordé cette audition aujourd'hui devant les juges avec sérénité. Et après presque 8 heures d'interrogatoire maintenant, rien n'a filtré de ce face-à-face entre Richard Ferrand et les juges lillois.
Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1. Merci.
Merci à vous. L'actualité, c'est également un autre grand titre. Le dialogue renoué sur la question de l'homophobie dans les stades de foot, après la passe d'armes que nous vous racontions hier entre le président de la Fédération française et la ministre des Sports.
Une réunion a été organisée aujourd'hui par la Ligue de football avec associations de supporters et associations de lutte contre l'homophobie. Simon Rubin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous l'avez suivi pour nous, cette réunion. L'enjeu, c'était de sortir de la cacophonie qu'on a entendue ces derniers jours. Est-ce que des décisions ont été prises ?
Alors comme on vous l'annonçait depuis ce matin, cette réunion elle a d'abord servi à rappeler des points de règlement, notamment le fait qu'effectivement on peut arrêter ou interrompre un match en cas de propos homophobes dans les tribunes. Il y a eu également auprès des supporters un rappel de la loi française tout simplement, mais surtout la grande annonce concerne la pédagogie, sensibiliser les supporters avec l'aide des associations partout en France. Voilà le chantier lancé par la Ligue et c'est ce que résume Didier Quillot de manière assez diplomatique, le directeur général l'exécutif de la LFP.
L'homophobie est un fléau et n'a pas sa place dans les stades. Il faut être très clair là-dessus. Mais il faut aussi être clair pour dire que les supporters ne sont pas homophobes. Cet après-midi, la démonstration a été faite, comme on vient de le rappeler, que tout le monde voulait sortir par le haut, que tout le monde voulait que la température refroidisse. Et ça va se passer localement, sur le terrain, club par club, où les associations LGBT vont aller expliquer et échanger avec les associations de supporters au niveau local.
Alors ce sera donc au bon vouloir des associations de supporters, c'est à elles d'inviter les associations LGBT pour discuter. Alors des supporters qui ont accepté de jouer le jeu parce qu'ils disent eux de leur côté avoir eu pas mal de garanties sur des dossiers très différents, notamment sur le fameux dossier des interdictions de déplacement. Et bien là, les supporters ont dialogué avec la Ligue, il va y avoir une sorte d'échange de bons procédés. On va peut-être assouplir certains règlements sur les déplacements et l'interdiction de déplacement dans les stades et en l'échange, et bien vous ouvrez la voie aux dialogue sur les questions de l'homophobie. Voilà en gros ce qui a été conclu aujourd'hui.
Simon Rubin en ligne depuis le siège de la Ligue professionnelle de football. Merci.
Et nous en reparlons avec mon invité juste après le journal, Johan Lemaire. Il a participé lui aussi à cette réunion. Il est footballeur homosexuel. Il avait été licencié de son club à cause de cela précisément.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, l'inquiétude à Saint-Nazaire. Ce soir, une étude pointe une surmortalité étonnante des habitants de la région sans qu'on puisse l'expliquer. Nous irons sur place.
Et puis le vendredi noir qui s'annonce en Ile-de-France est après-demain. Grève la plus importante depuis plus de 10 ans à la RATP.
Et votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
En Ile-de-France, c'est un vendredi de galère qui s'annonce pour beaucoup de franciliens. Prenez vos précautions. Si vous avez pris le métro ou le RER aujourd'hui, vous avez sans doute entendu cela.
Voilà, la RATP vous invite à limiter, à reporter vos déplacements. Au moins, c'est clair, vendredi, ce sera compliqué.
S'il n'y a ni métro ni RER, je ne sais pas comment je vais faire.
Je ne sais pas, bus.
Mais il n'y a pas de bus non plus.
Il n'y a pas de bus non plus, c'est pareil. Ah.
Voilà, il va falloir s'organiser. Mouvement de grève contre la réforme des retraites et la suppression des régimes spéciaux qui va avec. Grève extrêmement suivie qui s'annonce. Olivier Samant, on va faire le point très précis sur les prévisions de trafic. Elles viennent de tomber ce soir. 10 lignes de métro seront carrément fermées.
Oui, trafic interrompu toute la journée de vendredi sur les lignes de métro numéro 2, 3... 3 bis, 5, 6, 7, 7 bis, 10, 11, 12 et 13. Sur les autres lignes de métro, le trafic sera très fortement perturbé, dit la RATP, avec des lignes et des stations partiellement ouvertes aux heures de pointe seulement, autrement dit entre 6h30 et 9h30 et entre 17h et 20h. Ce sera le cas pour les lignes 4, 7, 8 et 9. Deux lignes seulement auront un trafic normal, les lignes 1 et 14. Logique, ce sont des rames automatiques, donc sans conducteur. Mais sur ces lignes, le risque de saturation sera évidemment très élevé. Sur le RER, la RATP annonce un trafic extrêmement perturbé sur les lignes A et B, avec des trains ne circulant qu'aux heures de pointe. Et s'agissant de la ligne B, une interconnexion interrompue à la gare du Nord. Enfin, sur les bus et le tram, comptez un bus sur trois en moyenne. Et un tramway sur deux, voire un tramway sur trois. Retenez donc le message donné ce soir par la RATP. Journée extrêmement perturbée vendredi. Extrêmement, c'est un mot qu'on entend rarement dans le langage de la RATP.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1. On vous donne toutes les infos, on vous oriente donc et tous les détails sur europe1.fr. Merci à vous. Que se passe-t-il à Saint-Nazaire, Sébastien? Que se passe-t-il pour que la mortalité des habitants soit plus élevée qu'ailleurs?
Mais on comprend bien la question qui taraude les habitants quand on lit cette étude de l'Observatoire régional de santé qui pointe une surmortalité conséquente, un 28% de plus pour les moins de 65 ans, des cancers plus fréquents. Bonsoir François Coulon.
Bonsoir.
Vous avez passé la journée sur place. Comment réagissent les habitants? La grande question, bien sûr, c'est d'où vient cette surmortalité?
Eh bien, cette question qui reste sans réponse est clairement très angoissante pour tous les Nazériens que j'ai rencontrés cet après-midi, car les chiffres chocs du rapport de l'ARS sont là. Une surmortalité de 28% par rapport à la moyenne nationale chez les moins de 65 ans et même 38% chez les hommes de cette tranche d'âge. Dont 41% des cas de mort est dû au cancer. Les autorités sanitaires mettent en avant l'alcool et le tabac, mais elles n'excluent pas le risque environnemental dans ce territoire très industriel. Le docteur Philippe Desguiral, oncologue à la clinique de Saint-Nazaire.
Il y a des rejets dans l'air de polluants avérés. Peut-être que c'est une accumulation de beaucoup de facteurs environnementaux qui aboutit à ces chiffres de surmortalité. On sait qu'il y a des hydrocarbures, on sait qu'il y a du soufre. Il y a beaucoup de patients qui ont travaillé avec des peintures, qui ont travaillé dans des usines où ils ont respiré, ils le disent eux-mêmes, de la fumée et autres. Mais nous sommes, nous, en tant que soignants, cancérologues, incapables de dire quel est le type de polluant incriminé. Ce qui n'est pas rassurant.
Voilà, l'urgence est maintenant de lancer une grande étude épidémiologique qui évaluera la part de la pollution atmosphérique dans ces pathologies.
François Coulon en ligne de Saint-Nazaire pour Europe 1.
Le diesel, attention, le diesel à nouveau sur la sellette. Nouvelle étude et nouvelle mise en accusation des constructeurs, même les véhicules les plus récents, ne respectent pas les normes. C'est l'association qui fut à l'origine du Dieselgate qui publie ces chiffres.
Oui, c'est l'ICCT. Elle a utilisé une technologie laser pour mesurer les émissions polluantes de près de 200 000 voitures à Paris en prenant en compte leur âge et leur motorisation. Le résultat est édifiant. Émissions de dioxyde d'azote bien au-delà des normes européennes. Et évidemment, ça fait mauvais effet au moment où s'ouvre demain le grand salon automobile à Francfort. C'est là que vous vous trouvez, Aurélien Fleureau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous en avez parlé justement avec les constructeurs qui défendent malgré tout leur diesel.
Oui, ce n'est évidemment pas la première fois que les constructeurs sont attaqués sur les conséquences environnementales du diesel, mais ils rappellent tous que pour beaucoup d'automobilistes, notamment ceux qui roulent énormément, et puis pour les flottes d'entreprises également, eh bien cela reste la meilleure option. Thierry Bolloré, directeur général de Renault.
Vous avez aussi des clients qui ont encore besoin de faire des centaines et des centaines de kilomètres par jour, et il faut aussi les satisfaire. Donc honnêtement, les diesels les plus modernes qui respectent les toutes dernières normes n'ont jamais été aussi propres, on peut le dire comme ça.
Les normes européennes se sont durcies depuis le Dieselgate de 2015. Elles seront encore plus strictes l'an prochain. Mais pour Grégory Delepine de Mercedes France, il n'y a pas encore de solution parfaite pour se passer de diesel.
Un diesel récent, à l'heure actuelle, a des moteurs thermiques qui polluent le moins. Avec les filtres à particules maintenant, on rejette pratiquement plus de NOx et encore moins de CO2 qu'un véhicule essence. Produire de l'énergie électrique peut aussi être rejeter du CO2 et produire donc des particules polluantes.
Et malgré tout, la chute des ventes de diesel va continuer, à tel point qu'un groupe comme Volkswagen a annoncé la fin de la production des moteurs thermiques pour 2040.
Aurélien Fleureau en ligne de Francfort pour Europe 1.
Est-ce que c'est la mort de la voiture traditionnelle, justement? La voiture électrique est-elle l'avenir? Vous avez-vous peut-être vendu la vôtre? Ce sera notre débat à 19h30. On vous attend, n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Merci beaucoup Sébastien Krebs. À tout à l'heure,
à tout à l'heure.
18h30.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Anissa?
Oui Nathalie.
Quel est le temps que vous nous prévoyez pour demain?
J'ai pratiquement que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Le temps redevient sec sur l'ensemble de la France et surtout le grand retour du soleil. Demain avec une journée très ensoleillée sur les trois quarts sud, pas partout. De l'Alsace au littoral méditerranéen en passant par la région lyonnaise, en Auvergne, Limousin, Poitou, en Gironde, dans le Pays Basque, sur le Midi-Pyrénées, là c'est ciel bleu sans nuages pour demain toute la journée. Au nord, ça se complique un peu. Sur les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, si vous nous écoutez dans les Hauts-de-France ou en région parisienne, là, la journée va débuter sous un ciel très nuageux, ça va être très gris demain. Un ciel qui pourrait vous apporter quelques gouttes de pluie, vraiment minimes. Et dans l'après-midi, le ciel s'éclaircit, les nuages s'en vont et la journée deviendra plus agréable pour la moitié nord. Les températures, elles remontent avec l'arrivée, le retour du soleil. C'est vrai que là, ça grimpe. 17 demain matin à Paris. Demain après-midi, on passe de nouveau la barre des 30 degrés dans le sud. 31 à Nîmes, 30 à Brive et Avignon, 25 à Paris et 22 à Rouen.
Une petite dose d'été indien.
Voilà, on en profite. Ça va continuer en plus. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Il a été licencié de son club de foot parce qu'il est homosexuel. Il a fait un long documentaire sur l'homophobie dans ce sport. Il assistait il y a encore quelques instants à la grande réunion organisée par la Ligue de football. Johan Lemaire est mon invité en direct sur Europe 1 dans une poignée de secondes.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. La Ligue de football organisait cet après-midi une grande réunion avec les associations de lutte contre l'homophobie dans le foot. Vous recevez Johan Lemaire, footballeur. Il a été licencié de son club parce qu'homosexuel. Il a fait un documentaire sur l'homophobie dans le foot. Il sort tout juste de cette réunion organisée par la Ligue de football.
Bonsoir Johan Lemaire.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous répondre en direct. L'événement se termine à l'instant. Cette réunion, vous y étiez. Racontez-nous, faites-nous vivre l'événement. Comment cela s'est passé? Combien de temps ça a duré?
Écoutez, ça a duré 2 heures. On avait rendez-vous à 15h jusqu'à 17h. Non, ça s'est très sincèrement vraiment bien passé. J'étais même assez touché depuis le temps qu'on pouvait espérer avoir une discussion avec des gens qui représentent les supporters. Et voilà, les associations LGBT, SOS Homophobie, oui. Les Panam Boys, on est très modérés, on a su discuter avec eux sans aucun problème, avec Olivier Rouillet également, et puis avec évidemment la LFP, Nathalie Bonnatour. Donc nous on a proposé des choses.
Donc tout a pu être mis sur la table, vous avez pu faire des propositions concrètes, quelles sont-elles à ce stade?
Là, on a proposé, s'ils souhaitaient, d'aller voir les groupes de supporters localement dans différents clubs en France pour aller discuter, proposer des actions de sensibilisation et puis faire des choses, des actions. Maintenant, on verra bien s'ils acceptent, mais le contact a été vraiment bon. On a pu vraiment échanger tranquillement, avec beaucoup d'humour. Et maintenant, bah, c'est à eux de prendre leurs responsabilités aussi. Hein, de se dire,
vous a donné, est-ce qu'on vous a donné des garanties, des dates, des éléments concrets? On vous a dit, bah, voilà, là-dessus, on vous entend, on va faire passer le message, on va vous appuyer. Qu'est-ce qu'on vous livre véritablement? Qu'est-ce qu'on vous apporte comme garantie ce soir?
C'est plus dans la confiance. Il n'y a pas une garantie claire, nette, précise. C'est dans la confiance. Je pense que l'Association nationale des supporters ont été surpris, agréablement surpris qu'on souhaite ne pas les stigmatiser, ne pas les traiter d'homophobes, parce que nous, on est persuadés qu'ils ne le sont pas. Leurs mots, parfois, le sont. Donc, ce sera dans la confiance. Pas besoin de se mettre des défis ou se mettre une pression inutile, ça sera dans la confiance et on y croit sincèrement.
Vous y croyez sincèrement. Et vous y croyez sincèrement en dépit des propos de Noël Le Graët, évidemment, hier. Vous les avez condamnés.
Bien sûr.
Aujourd'hui, l'ambiance, compte tenu de ces propos, pour autant, a été constructive. C'est ce que vous nous dites. On se dit, pour autant, vous avez dénoncé l'improvisation, le défaut de concertation, la communication agressive avec laquelle a été engagée depuis le début la lutte contre l'homophobie. Mais là, vous sentez qu'un cap peut être enclenché. On a passé
absolument
un cap.
Absolument, parce que les propos de Noël Le Graët démontrent bien le mépris de l'homosexualité et de l'homophobie dans le football. Ça donne vraiment envie, à la rigueur, aux supporters de pas tomber là-dedans, de se dire, bon, on va peut-être aussi montrer des exemples. On l'espère. Donc, ça démontre bien qu'il y a un problème. Hein. C'est depuis longtemps que le football, c'est très tabou, l'homosexualité, on le sait. Mais les propos de Noël Le Graët, on aurait pu penser l'inverse, que ça bloque, ça cristallise la réunion, mais au contraire, ça nous a tous rassemblés pour se dire, bon, on sait qu'il y a quand même un gros souci, il faut s'en sortir de là, parce que sinon on ne va jamais y arriver.
Il y a eu les propos de Noël Le Graët que vous avez condamnés. Il y a eu aussi les propos hier d'Emmanuel Macron. Le président a dit, il ne faut pas édicter une règle fixe, il faut être intraitable sur le fond, mais pas de règles comme des lois qui tombent.
Eh bien, on est d'accord. Et l'ensemble des associations LGBT, très sincèrement, nous sommes, tout comme lui, on parle de discernement, de bon sens, de lucidité, de prendre du recul. On ne peut pas crier à chaque fois parce qu'un supporter dans une tribune a dit un mot grossier ou homophobe. Il faut prendre du recul, on est tous conscients. Les choses ne pourront pas tout changer du jour au lendemain. Oui. Il y aura du temps. Les choses vont se mettre en place. Et je crois qu'il faut quand même saluer le courage, à mon sens, de la LFP, parce qu'ils ne veulent pas faire marche arrière.
La Ligue de football professionnel. Ouais.
Voilà, la Ligue de football professionnel. Et très sincèrement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il ne faut pas se leurrer.
Juste un mot, Yoann Lemaire, on vous remercie de nous raconter ce qui s'est joué dans cette réunion là à l'instant. Noël Le Graët, en l'état, peut rester président de la Fédération française de football, compte tenu de ce qui s'est dit.
À mon sens, non, mais enfin, moi je suis pas grand chose, je suis qu'un citoyen, mais
oui, mais concerné, impliqué et engagé.
Mais voilà, moi j'ai honte d'avoir, je vous le dis très sincèrement, d'avoir cotisé une licence à la FFF pendant autant de temps pour voir un président qui, on l'espère, on aurait pu imaginer de l'exemplarité. La France est championne du monde. On aurait pu espérer l'exemplarité. Il fait tout l'inverse. Franchement, moi, j'en suis un peu honteux d'être si passionné de football. C'est un très mauvais signal qu'il envoie envers les éducateurs, envers les gamins et même envers les supporters. En gros, c'est continuer, on s'en fout. Parlons d'autre chose.
Il peut rester ou pas, président de la FFF ?
Non. À mon sens, non. Mais non, moi, je pense que non. Maintenant, il faut évoluer. Il faut mettre des gens qui sont ouverts d'esprit, qui veulent vraiment faire avancer les choses. Le foot, c'est un moyen très important de parler et d'éduquer avec les jeunes. Donc il faut avancer là.
C'est merci Yoann Lemaire. Et vous avez le sentiment d'avoir avancé durant cette réunion en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous en dire plus ce soir et de nous avoir résumé la situation. Donc vous êtes ce soir positif. En tout cas, vous sentez qu'on peut avancer concrètement. Merci à vous.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, le rappel des titres, la météo et le débat des grandes voix. C'est tous les soirs entre 18h30 et 19h pour décortiquer avec vous l'actualité. La Macronie rattrapée par les affaires. Richard Ferrand entendu par les juges. C'est le président de l'Assemblée. Hein. Et puis l'homophobie dans le foot, on va y revenir également avec nos grandes voix.
Et vous pouvez réagir au 39-21, n'hésitez pas. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Le rappel des titres de l'actualité, Sébastien Krebs.
Vendredi noir annoncé dans les transports en Ile-de-France. Tous les syndicats mobilisés contre la réforme des retraites. 10 lignes de métro seront totalement fermées. Trafic extrêmement perturbé sur les autres. Et pour les bus, les RER A et B, la RATP invite les Franciliens à reporter leurs déplacements. Vous trouvez toutes les prévisions de trafic sur Europe1.fr. Richard Ferrand, entendu par les juges aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale était convoqué à Lille dans l'affaire des mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait. Il est soupçonné d'avoir fait profiter sa femme d'une opération immobilière. Et puis calendrier décidément compliqué pour la majorité puisqu'au même moment, les dirigeants du Modem, Marielle de Sarnez et François Bayrou, étaient interrogés, eux, dans l'enquête sur les présumés emplois fictifs des assistants parlementaires. L'Assemblée nationale a adopté ce soir définitivement le projet de loi sur l'énergie et le climat. Il fixe les objectifs de la France, baisse de 40% de la consommation d'énergie fossile d'ici à 2030, fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. Un appel à témoins lancé en France dans l'affaire Epstein. Il s'agit de tenter de retrouver de potentielles victimes ou témoins des agressions sexuelles dont est soupçonné le milliardaire américain qui depuis s'est suicidé en prison. En Grande-Bretagne, nouveau revers pour Boris Johnson. La justice écossaise estime que la suspension du Parlement est illégale. Le Premier ministre va faire appel. Et puis, l'exploit du basket français. Du jamais vu, les Bleus ont éliminé les États-Unis, la meilleure équipe de la planète. Éliminé du mondial qui se joue en Chine, 89-79. Les Français joueront l'Argentine en demi-finale. Ils décrochent par la même occasion leur qualification pour les JO de Tokyo l'été prochain.
Merci Sébastien. Vous revenez à 19h avec un journal complet, évidemment.
À cette heure.
La météo, Anissa.
Peugeot Service présente.
J'arrive, je suis là, en courant. Non, vous étiez bien installé. Calé pour nous dire.
Pour vous dire que la journée de demain s'annonce nuageuse dans le nord uniquement. Hein, sur les Ardennes, la région parisienne, la Bourgogne, la Mayenne, la Sarthe, les Pays de la Loire, les Côtes de la Manche, la Bretagne. Si vous nous écoutez dans l'une de ces régions, même en Ile-de-France, demain, le ciel sera gris avec des bruines matinales. Alors des bruines, c'est vraiment 2-3 gouttes, rien d'affolant au fil des heures. Ces nuages vont se dissiper, le ciel va se dégager avec de belles éclaircies l'après-midi. Sur le reste du pays, sur l'Alsace, le Pays Basque, l'Auvergne, le Limousin, le long du littoral méditerranéen, sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, c'est grand soleil toute la journée demain. Du coup, les températures, elles grimpent et elles passent la barre des 30 degrés. Hein. On aura 31 degrés demain après-midi à Nîmes et Montpellier et 25 à Paris.
Merci Anissa.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Avec des grandes voix qui sont là, à mes côtés, installées dans ce studio jusqu'à 19h. Michel Cotta, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bienvenue. On est ensemble pendant une demi-heure. Et vous, auditeurs, vous êtes là aussi, j'espère, au 39-21 pour les interroger, interagir avec nous tous. Avec, quand même, hein, il le disait Sébastien Krebs dans son journal, la Macronie rattrapée par les affaires. Oh bah dites donc, Michel,
vous savez, la justice s'achemine lentement, mais sûrement.
Oui. Alors l'affaire... Lentement, hein, j'insiste sur le lentement, on va y revenir.
Cette affaire-là, l'affaire de M. Ferrand...
Ferrand, pour commencer.
A commencé donc il y a 2 ans. A commencé il y a 2 ans. Bon, ben 2 ans, c'est le cheminement. Alors bon, vous connaissez les étapes intermédiaires. Oui. Il y a eu d'abord...
D'abord une information judiciaire pour crise d'égal intérêt, un non-lieu, etc.
Enfin, là, pas un non-lieu d'ailleurs. Une affaire classée sans suite, sous réserve, parce qu'on parlait de prescription. Après quoi, il y a eu la plainte de l'association Anticorps.
Voilà.
Et du coup, des juges ont été désignés. Ça chemine, donc voilà.
Et cette affaire qui quand même coûte sa place, il faut le rappeler, à Richard Ferrand, au gouvernement. Accessoirement.
Ah oui, ça lui a coûté effectivement sa place au gouvernement. Entre-temps, il avait quand même touché un beau lot de consolation avec la présidence de l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, il est tout... Alors, disons tout de suite, comme toujours, il est présumé innocent. Mmh. Et on attendra de savoir quand il sera sorti, s'il est mis en examen.
Il est entendu depuis ce matin.
Voilà, depuis 10 heures, en gros, maintenant. Hein. Mmh. S'il est mis en examen. S'il est mis en examen, ça posera un petit problème. Bon.
Ah, bah justement, c'est toute la question, Michel Cotta. Ouais. Si on avance vers. Évidemment, il est présumé innocent. Ce qu'on regarde, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si, évidemment, il est mis en examen. Avant lui, d'autres, sans être mis en examen, François Bayrou, on va y venir dans un instant, puisqu'il est aussi dans le calendrier.
Il est président de l'Assemblée nationale.
Exactement.
Donc, il tient sa légitimité de l'Assemblée. Mais enfin, ça sera difficile quand même.
Rugy était parti.
Moi, je voudrais un peu dire ce que je pensais. J'ai tout de suite pensé que le gouvernement donnait des verges, que le président donnait des verges pour se faire battre lorsqu'il a nommé Sylvie Goulard. Il était évident que Sylvie Goulard, qui a été prise, alors la première dans cette histoire présumée. D'emploi fictif.
Elle a été entendue hier, elle aussi.
Non, mais il est évident qu'à partir du moment où elle est nommée quelque part, on dit que la justice va à son cours, mais quand les inconnus deviennent des quand les hommes politiques deviennent des inconnus, la justice n'insiste pas trop. Mais quand d'un seul coup, ils reviennent comme Sylvie Goulard, il est évident que Sylvie Goulard reviendrait et avec elle, tout le MoDem.
Et avec elle, tout le MoDem. Donc, effectivement, le MoDem, on en parle, Mickaël Darmon, parce que sur la liste, il y a aussi Mickaël Darmon, j'allais dire, il y a aussi François Bayrou aujourd'hui, entendu.
Moi, je suis sur votre liste, pas sur la liste. Oui.
Lequel n'a jamais été entendu avant. Hein. Ça fait deux ans qu'il attend d'être entendu, personne ne veut rien de moi.
Voilà. Et demain, c'est au tour de Marielle de Sarnez. Là, on est dans, quand même, il faut préciser qu'on est dans une toute autre affaire. Ils sont convoqués, eux, pour une histoire d'assistant
parlementaire. Absolument.
Qui aurait
d'emploi fictif, d'assistant parlementaire à Bruxelles qui aurait travaillé donc en réalité pour le parti et non pas produit pour l'Assemblée européenne. Évidemment, c'est encore trop tôt pour le dire puisque les auditions se déroulent et c'est vrai que l'on peut remarquer que la nomination de Sylvie Goulard a déclenché ces auditions. Est-ce que ça déclenche les auditions pour que finalement les dossiers soient clos et que là, au fond, les autorités policières, judiciaires terminent la tête haute en disant voilà, on a fait, on a terminé et maintenant ils peuvent revenir aussi en politique. Ça, on le verra bien. En tout cas, la coïncidence est patente. Et concernant Richard Ferrand, là aussi, le dossier était dépaysé avec la plainte anticorps.
Bien
mais
sûr.
Ça, évidemment, la justice fait son travail à son rythme, mais en
peut-être le problème.
Ça vient coïncider avec la rentrée parlementaire.
Oui, mais c'est ça.
On est rentré il y a trois
c'est
jours.
C'est pour ça qu'il y a quand même des coïncidences. Donc, c'est tout ça. Donc,
mais il n'y a pas de coïncidence.
Derrière
nous, suffisamment d'expérience des 30 dernières années, il n'y a pas de coïncidence. Les juges n'aiment pas qu'on vienne. Ils ont l'impression qu'on les provoque un peu quand quelqu'un qu'ils ont un peu...
Ils
examinent dans le collimateur, etc. Tout d'un coup, on donne une promotion à cette personne et ils disent, oh là là, eh ben, puisque c'est comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir.
Non mais
et
attendez, c'est intéressant ce que vous dites, mais il y a peut-être quand même à se poser la question du temps médiatique et du temps judiciaire. Et on se pose la question juste après. Et au 39-21, j'espère que vous allez réagir vous aussi.
Et vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Michel Cotta, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Grande voix que vous pouvez interpeller dès maintenant au 39-21 en direct, 50 centimes la minute.
Oui, on vous parle des affaires en Macronie au moment de la rentrée parlementaire. Il y a d'un côté Richard Ferrand, entendu depuis ce matin, 10h par la justice à Lille. Dans le même temps, François Bayrou, entendu lui par les policiers dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires du MoDem. Affaire qui traînait, hein, vous l'avez rappelé, Gérard Carrérou. Il avait donc était bien sûr obligé de quitter le gouvernement. Je voulais aller avec vous, Mickaël Darmon, sur l'aspect quand même, le temps judiciaire, le temps médiatique et le temps politique en quelque sorte. Parce qu'on se souvient, départ de François Bayrou, départ de Marielle de Sarnez, très vite. Et puis là, on est sur Richard Ferrand dans un moment où l'affaire, elle date de 2011. Il est entendu encore aujourd'hui, 2011, c'était il y a 8 ans.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette affaire, elle démarre avec le quinquennat Macron, hein, l'affaire Ferrand. Hein, et elle vient en fait immédiatement télescoper la première loi, le premier acte, le premier axiome du nouveau président Macron à l'époque, qui était de dire « je changerai les usages, les modes de fonctionnement, la démocratie ». Et ce sera la première loi du quinquennat, portée d'ailleurs par l'éphémère garde des Sceaux Bayrou, qui n'a pas pu rester parce qu'il ne pouvait pas la porter, mais parce que Sylvie Goulard était partie. À son corps défendant. Absolument. Bref, elle avait obligé tout le MoDem à partir. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des retrouvailles, je dirais, avec ce MoDem qui a dû quitter le gouvernement sans le vouloir. Un Richard Ferrand qui a, au fond, marqué dès le début du quinquennat avec son affaire un coin dans le propos nouveau du président Macron. Et une fois de plus, ça vient, je dirais, polluer une rentrée qui s'est voulue extrêmement huilée. Très scénographié, on l'a encore vu hier avec le président à Bonneuil. On a le sentiment que ça va être tout le temps comme ça.
Mais vous parlez du temps judiciaire et du temps politique.
Bah oui. Regardez, et du temps médiatique aussi.
Et du temps médiatique.
Qui va très vite.
Regardez l'affaire Fillon. L'affaire Fillon n'a toujours pas été jugée. Mm-hmm. Le président, il était candidat. Il n'a plus été candidat.
Bien sûr.
Et puis, enfin, il a été candidat, puis, mais il était...
Parce que l'enquête est partie en 48 heures.
C'est parti à toute vitesse, ouais. et 2 heures après, où est-ce qu'on en est? Il y a eu quelques auditions, mais même, on attend.
Quand on pense que le MoDem, a été... il y a eu une perquisition au MoDem, mais les leaders du MoDem n'ont jamais été entendus. Ils le sont aujourd'hui. Alors, il ne faut quand même pas présumer de ce qu'ils vont... dire en sortant aussi.
Bien, bien entendu, mais il y a toujours une histoire d'image. On va aller sur l'image dans un instant. Kevin est en ligne avec nous. Michael, je vous donne la parole après. Kevin qui nous appelle de Nantes. Bonsoir à vous, Kevin.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Il y a le calendrier qui se télescope, mais on est dans une présomption d'innocence dans tous les cas.
Oui, et je pense qu'on n'est pas sur des affaires en effet gravissimes. Moi, je pense que le péché originel, c'est qu'on a là un gouvernement et même un président de la République qui ont été élus, comme le disait Coluche, en promettant de laver plus blanc que blanc. Mmh. Et finalement, dans la réalité, ils ont juste lavé blanc. Et du coup, ça paraît gris clair. Et je pense qu'il y a pas mal de gens là, qui n'ont pas voté pour le projet d'Emmanuel Macron en 2017, qui ont voté parce qu'il y avait la promesse d'un nouveau monde. Et on voit bien que ce nouveau monde, en fait, il n'existe pas. Puisqu'on a juste rebrassé pas mal de personnalités politiques qui étaient là depuis quelque temps. On a mis quelques nouvelles personnes, mais finalement, on voit qu'on a toujours ces problèmes d'affaires qui sont pas grave, enfin, on n'est pas sur l'affaire Cahuzac, hein, dans le fond, clairement, mais dans la mesure où il y avait cette promesse d'être vraiment hyper transparent et de faire la politique autrement, eh bien aujourd'hui ça fait tâche.
C'est ce qu'on peut dire, que François Bayrou et Marielle de Sanaz ont payé par avance quand même.
Oui.
En abandonnant le gouvernement. François Bayrou, aussi qui était lui porteur de cette réforme,
la moralisation de la vie publique,
qui avait fait campagne là-dessus.
Exactement.
C'est vrai que c'était douloureux. Donc ils ont été punis avant même que de commencer.
Exactement. Merci beaucoup, Kevin. Oui, Michael.
Oui, je voudrais rebondir et prolonger ce que disait Michel tout à l'heure sur effectivement l'irruption de Sylvie Goulard sur la scène et qui a l'air de déclencher tout cela. Un peu dans le sous-texte, ce qu'on m'expliquait un petit peu à l'Élysée le jour où elle allait être nommée, vraiment le même jour, on me disait en fait, elle a expliqué aussi, elle nous a expliqué, disait-on à l'Élysée, que son affaire est terminée. Du côté de l'Élysée, il semble avoir été un peu convaincu de cela, sans dire qu'on a vérifié.
D'abord, c'est possible.
Deux, ça peut être aussi déclenché, comme on le disait, l'ire des juges qui n'aiment pas que l'on décide à leur place, qu'éventuellement on le fasse savoir, et qui, au fond, font une petite piqûre de rappel avant de l'envoyer devant ses pairs, où là, l'audition devant les députés européens risque d'être aussi assez acérée et assez ardue, parce qu'effectivement, ils ont aussi quelques griefs à son encontre.
Mais qu'est-ce qu'on se dit globalement qu'en termes d'image, la délicate question de l'image? On est à 7 mois des municipales. Non, Michel
Oui, parce que l'image, comme le disait très bien notre auditeur, c'est pas des fautes graves.
Oui, mais c'est des fidèles de la Macronie.
Graves ici.
C'est des
Bayrou existait avant.
Oui,
mais
c'est
non, mais attendez, je parle de Richard Ferrand, précisément. En l'occurrence,
c'est vrai que c'est quand même un
trésorier. C'est le trésorier roi de la Macronie quand même.
C'est pour ça que je trouvais que
Ferrand, c'est le premier des fidèles, le premier allié.
Et je trouvais que le président aurait été bien inspiré de laisser Sylvie Goulard vice-présidente de la Banque de France.
Oui, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il pense, il a posé comme principe dès le début que les premiers resteront les premiers, et il avait toujours, il a toujours une dette à l'égard de ceux qui l'ont suivi dès le début.
Bon, on va voir dans combien de temps ça se termine, l'audition de Richard Ferrand. Il est quand même depuis 10 heures ce matin, hein, devant la justice à Lille. On se reparle dans un petit instant. Il y avait une réunion de crise, vous savez, autour des propos, des banderoles homophobes dans le football. Vous allez me livrer évidemment votre vision de tout cela.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Michel Cotta, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes la minute.
L'homophobie dans le foot, bien entendu, on en parle ce soir parce qu'il y avait cette réunion entre les supporters ce soir, et puis représentée par l'Association nationale des supporters et puis la Ligue de football professionnel. Ça se tenait tout à l'heure, on était à la sortie justement avec Johan Lemaire, qui est lui-même joueur de foot homosexuel et qui a été licencié pour ce motif-là. Gérard Carrérou, il y a eu les propos de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot. Il y a d'ailleurs Emmanuel Macron qui s'est aussi, lui, qui est allé à petits pas sur le sujet hier.
Il y a eu des extrêmes un peu. Le propos de Le Graët a choqué beaucoup de gens.
Pour cause.
Il allait un peu dans le sens, en tout cas certains l'ont pris comme ça, de minimiser un peu ce qui se passait.
Largement
sous-estimer et minimiser ce qui se passait dans les stades. Et on a eu une réaction à l'opposé du ministre, de la ministre, qui a dit clairement on ne peut pas accepter, etc. Et on a vu quelque chose d'intéressant. On a vu le président de la République monter au filet. Et le président de la République a été, je dirais, entre les deux.
Ah bah il a été.
Il a parlé de discernement.
Exactement.
Il a dit on peut pas effectivement. On peut pas avoir une loi qui fasse qu'automatiquement à la moindre insulte sur un stade, on arrête le match.
Mais intraitable sur le fond.
Donc je ne vois pas ce que vont décider aujourd'hui nos supporters réunis avec nos footballeurs, si ce n'est qu'il faut faire la police dans les stades, comme ça a été fait au PSG. À un moment donné.
C'est ce qu'a dit Le Graët d'ailleurs.
Il faut le faire. Il y a quand même des supporters. Quand ils amènent des banderoles de 25 mètres de long,
c'est ça, il faut quand même des faits.
D'abord, comment elles entrent dans les stades, etc. Il y a des tas de problèmes techniques à regarder de près.
Donc ça va être du cas par cas, Michael. Ça va être de la discussion, du conciliabule. C'est ça, en fait.
En tout cas, pour l'instant, effectivement, l'arbitre Macron a au fond laissé entendre que le match entre les deux pouvait continuer parce que la phrase pas de fausse polémique, on se demande à qui elle s'adresse déjà. Est-ce qu'elle s'adresse à la ministre ou est-ce qu'elle s'adresse à Le Graët? Elle est quand même assez floue pour pouvoir laisser...
Cette phrase-là, c'est effectivement le point d'angle.
Non, ce qui est, au fond, à quoi on assiste aussi à la prolongation, je dirais, d'un conflit qui a commencé déjà depuis longtemps entre Noël Le Graët et la ministre des Sports. Ça avait commencé déjà lors d'un match précédent entre PSG et l'OM. On l'avait dit, c'est absolument inadmissible, ce genre de propos. Et lui, il avait répondu, il avait tensé en disant bon, c'est vrai qu'elle arrive pour la première fois dans un stade, dans les piscines, on n'entend pas ça.
Voilà. Elle ne sait pas de quoi elle parle.
Est-ce qu'on peut distinguer
l'ostracisme anti-homosexuel de l'ostracisme anti-noir, anti-arabe?
À mon avis, non.
Le même ostracisme. Alors après, qu'est-ce qu'on décide d'arrêter le match? Moi, je trouve que ça fait assez réfléchir les gens. Ça déplaît beaucoup à ceux qui sont là, aux spectateurs, mais ils ont qu'à faire attention. Donc, moi, je trouve quand même que l'arrêt du match se justifie, qu'il s'agisse du moment où on lance des bananes sur un noir ou au moment où on dit qu'un type est, dans le vocabulaire sportif, PD.
Absolument.
Bon. Alors, Francis, qu'est-ce qu'il en pense, Francis? Bonsoir à vous, Francis. Vous êtes appelé de Nancy. Qu'est-ce que vous dites de tout cela ce soir? On a avancé ou pas ?
Bonsoir. Oui, c'est un faux débat, c'est un leurre, à mon avis, médiatico-politique ou politico-médiatique. Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des vrais problèmes, notamment, par exemple, de Ferrand et de Goulard. Donc vous avez
on en parle pendant un quart d'heure, Francis. Vous êtes branché trop tard.
Vous allez en parler, mais on en parle partout. Non, les politiques en parlent très très peu. Et c'est un faux problème parce que En ayant amplifié un phénomène qui existe depuis, enfin moi je fréquente les stades depuis 50 ans, en ayant amplifié un phénomène qui était existant, sous-jacent depuis toujours, et qui est un phénomène de meute, c'est-à-dire que les gens quand ils sortent, si vous les reprenez individuellement, il n'y en a pas un qui traitera qui que ce soit avec des propos racistes ou des propos homophobes. Maintenant, on a lancé un concours, un nouveau challenge, comme on en trouve beaucoup sur Internet. Ben voilà, on va trouver un nouveau challenge, celui qui réussit à faire arrêter le match.
Mais vous les voyez quand même, les banderoles? Vous les avez vues dans les stades, les banderoles?
Oui, enfin, vous vous rappelez de la banderole PSG contre Lens, bienvenue aux ch'tis, au moment du succès des ch'tis,
Michael Darmon et Michel Cotta veulent intervenir avec vous, Francis.
La question qu'il faudra se poser, c'est pourquoi on n'a pas ce genre de phénomène dans les publics du rugby, du basket, du tennis.
Exactement.
Donc il y a déjà une spécificité football, et ça, il faut l'admettre et il faut le voir en face. Ensuite, c'est vrai aussi que on a vu la ministre des Sports extrêmement combative sur ce sujet. Mais si on doit régler les problèmes qu'il y a dans le football, il faut aussi parler de la violence sur les terrains tous les dimanches sur le football amateur, des problèmes de communautarisme qui existent dans le football. Donc on voit qu'elle se saisit d'un sujet qui est extrêmement polémique, mais qui ne va pas régler l'ensemble des problèmes qui sont
au football. C'est une question des peuples aussi. Des sports non plus, parce qu'on a une tentation de dire c'est le peuple, le peuple footballistique, c'est vraiment
le rugby, c'est aussi le peuple.
C'est une question des peuples. Moi, j'entends très bien notre auditeur lorsqu'il dit qu'il est dans les stades depuis 50 ans. Moi aussi, presque. Mais bon... c'est vrai que ce qu'on supportait il y a 20 ans, 30 ans, quand on ne se posait pas tous ces problèmes, est maintenant devenu insupportable. Voilà, il y a une question d'époque et de mœurs.
L'antiracisme est devenu une valeur universelle qu'elle n'était pas il y a 20 ou 30 ans. On a changé d'époque. Les temps ont changé.
Et ça, peut-être que Noël Le Graët ne l'a pas tout à fait
compris.
Comme dirait
Bob Dylan.
Merci en tout cas, merci à vous. Vos points de vue, c'est chaque soir les grandes voix d'Europe 1. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Votre rendez-vous, c'est dimanche de 10h à 11h, le grand rendez-vous en partenariat avec CNews. Et les échos, votre invité ?
Brice Hortefeux, député européen LR.
Bien entendu. Merci beaucoup à tous les trois.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, c'est le journal de 19h. Sébastien Krebs s'installe dans ce studio dans une seconde à la une de l'actualité ce soir. La galère avec un grand G annoncé pour les franciliens. Grève très suivie après-demain à la RATP. On vous dit tout.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy.
Le programme, je vous le déroule, 19h10, ne manquez pas l'interview. Le patron de l'Assemblée entendu par les juges. David Doucan reçoit le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Richard Ferrand est toujours entendu devant la justice à Lille ce soir. 19h20, demain en France, demain dans le monde, on ira à Lyon et aux États-Unis. Et puis à 19h30, vous avez la parole au 3921, le salon de Francfort, le salon automobile qui ouvre demain et au public. Est-ce que la voiture traditionnelle a encore la cote? Franchement, bon début de soirée, on vous attend au standard nombreux.
Et le standard d'Europe 1, vous le connaissez par cœur, c'est le 3921. Venez réagir, n'hésitez pas. Vous pouvez également réagir et poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1. Très belle fin de journée avec Europe 1. Il est 19h. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
La RATP n'est pas une entreprise où les agents font énormément grève. Les agents tiennent à leur régime.
Et cette fois, ils vont faire grève. Une grève monstre qui s'annonce dans les transports franciliens vendredi. 10 lignes de métro fermées, trafic extrêmement perturbé sur les autres et dans les bus et RER. Mouvement des agents contre la réforme des retraites.
Je vous le disais, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, toujours devant les juges, interrogé dans l'affaire des mutuelles de Bretagne.
Dans ce journal également, une soixantaine de plaintes visent désormais l'ancien chirurgien de Jonzac, accusé de pédophilie.
Et puis le monde du football qui renoue le dialogue sur l'homophobie et se met d'accord sur une campagne de sensibilisation chez les supporters.
Enfin, cet exploit des basketteurs français, les Bleus ont sorti du mondial la meilleure équipe de la planète, la Dream Team américaine.
La tendance météo, Anissa ?
Des nuages au nord, du soleil sur les trois quarts sud et des températures en hausse pour
et
demain.
Les détails après le journal.
Europe 1. Attention, ça commence dès demain soir, 18h, mais c'est surtout la journée de vendredi qui s'annonce très compliquée dans les transports franciliens. Mouvement de grève jamais connu de cette ampleur, en tout cas depuis 2007. Et la raison est la même, les agents de la RATP s'opposent à la réforme des retraites et à la suppression de leur régime spécial.
Grève qui s'annonce extrêmement suivie. Écoutez Laurent Djebali du syndicat principal à la RATP, l'UNSA. Il est le secrétaire général des conducteurs de métro et de RER.
Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'au niveau du RER, ça sera suivi à plus de 98%. Au niveau de la conduite, au niveau du métro, ça sera suivi à plus de 95%. Au niveau des conducteurs de bus, ça sera suivi à plus de 60%. Au niveau des stations, au niveau de la maintenance, c'est la même chose, ça sera très suivi aussi. Vous savez, la RATP n'est pas une entreprise où les agents font énormément grève. Mais les agents tiennent à leur régime, tout simplement parce que quand ils sont rentrés au niveau de la RATP, ils ont signé un contrat social, que ce soit avec le gouvernement ou avec l'entreprise, dans lequel on acceptait les contraintes du service public et les spécificités du métier. En échange, on avait, vous savez, les régimes spéciaux. La réforme que le gouvernement veut entreprendre veut balayer le contrat social qui a été passé avec l'ensemble des salariés RATP. Et c'est pas possible.
Propos recueillis par Olivier Samin pour Europe 1. Vous retrouvez évidemment toutes les prévisions de trafic très précises sur europe1.fr. Mais sachez que 10 lignes de métro vont rester totalement fermées, que le trafic sera extrêmement perturbé sur toutes les autres, mais aussi dans les bus. Un train sur 5, par exemple, sur le RER B et uniquement aux heures de pointe. Un train sur 3 également uniquement aux heures de pointe sur le RER A.
Et on vous en dit plus dans tous les points, évidemment, d'actualité sur cette antenne d'Europe 1. L'actualité politique, c'est le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, quatrième personnage de l'État qui se retrouve face à des juges.
Richard Ferrand, interrogé toute la journée par les juges d'instruction lillois, ce sont eux qui mènent l'enquête sur des accusations de prise illégale d'intérêt qui datent de l'époque où il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Il est accusé d'avoir fait profiter sa femme d'une opération immobilière.
Audition qu'il a abordée très sereinement, on fait savoir ses proches en tout cas. Il faut savoir qu'une première enquête dans ce dossier s'était soldée par un classement sans suite, d'où la prudence aujourd'hui parmi les députés, y compris dans l'opposition. Écoutez Philippe Gosselin des Républicains.
Ce qui arrive aujourd'hui, quel que soit le résultat final, nuit à l'image de l'institution. Et c'est évident qu'en fonction des conclusions qui en seront tirées, la façon de présider, de diriger les débats pourrait s'en trouver atteinte. Donc dans tous les cas, c'est un mauvais signal. Mais que la justice fasse son travail, que les auditions se poursuivent, que des incriminations soient faites le cas échéant. Et le moment venu, si c'est bien le cas, on en tirera ou on demandera en tirer les conclusions.
Philippe Gosselin, au micro Europe 1 de Claudia Bertram. Et puis hasard du calendrier judiciaire, mais on va dire qu'il ne tombe pas au mieux pour la majorité, puisqu'au même moment, les alliés du Modem, Marielle de Sarnez et François Bayrou, étaient entendus, eux, par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête sur les présumés emplois fictifs des assistants parlementaires.
Et sur Europe 1, on vous reparle maintenant de cette affaire mise au jour cet été. Elle concerne un ancien chirurgien de Jonzac, en Charente-Maritime. Il est mis en cause dans une affaire de pédophilie.
Et chez lui, les enquêteurs avaient retrouvé une sorte de journal, des carnets détaillant des actes sexuels commis sur près de 200 jeunes filles mineures, actes potentiellement commis dans le cadre de son exercice professionnel, donc profitant de la vulnérabilité de ses patientes. Les enquêteurs tentent de retrouver ces victimes présumées et désormais c'est une soixantaine de plaintes qui visent le chirurgien. Écoutez le procureur de la République de La Rochelle, Laurent Zukowicz.
Une soixantaine de personnes en effet ont été entendues et ont souhaité déposer plainte. Plaintes qui doivent être nécessairement croisées avec d'autres éléments, par exemple des documents établis lors d'une hospitalisation, des témoignages, etc. Donc il s'agit d'un travail d'enquête qui nécessite du temps et de la rigueur. Et à ce stade, toute exploitation anticipée est nécessairement prématurée.
Ces personnes n'auraient pas porté plainte si les gendarmes ne les avaient pas contactées ?
En effet, puisque ce sont des faits anciens qui ont peut-être été commis, je dis peut-être parce que ça a pu être dans le cadre notamment d'une hospitalisation.
C'est-à-dire qu'elles étaient dans un état de faiblesse, voire endormies ?
C'est ça précisément qui fait l'objet de vérifications actuellement.
Donc les personnes n'ont pas forcément conscience d'avoir été agressées ?
C'est toute la problématique de cette procédure, en effet, oui.
Voilà la complexité de cette enquête avec le procureur de La Rochelle, interrogé par Alain Acco.
La police française qui lance un grand appel à témoins, cette fois dans l'affaire Epstein.
Oui, la recherche de toute victime ou de simples témoins de potentiels agissements du milliardaire américain qui, je vous le rappelle, s'est suicidé en prison. Une enquête est ouverte en France pour viol et agression sexuelle. Elle vise de possibles complicités. Trois victimes ont déjà été auditionnées.
Et on suit de près ce dossier. On en parlait tout à l'heure avec mon invité. Le dialogue est enfin ouvert entre les supporters de foot, la Ligue et les associations LGBT. À l'issue d'une réunion aujourd'hui, ils ont convenu d'une grande opération de sensibilisation pour endiguer le fléau de l'homophobie dans les stades.
Oui, concrètement, tous les clubs de supporters sont invités à contacter les associations LGBT partenaires de la Ligue pour organiser localement des discussions, des échanges sur ces questions. Écoutez la réaction à la sortie du président des Panam Boys. C'est un club de foot 100% inclusif. Bertrand Lambert.
On a posé les bases d'un dialogue, je l'espère, qui sera constructif avec l'idée que tout le monde puisse se sortir par le haut de cette situation où effectivement aujourd'hui on est tous perdants. On a tous intérêt à avoir des stades plus inclusifs et c'était un premier pas aujourd'hui très important et il faut vraiment remercier les supporters qui étaient présents parce que c'est vraiment pas facile pour eux. Il y avait des dialogues qui se faisaient par médias interposés. Il fallait qu'on se parle tout simplement entre nous là. Et c'est ce qu'on a fait le plus simplement du monde. On a dit les choses simplement, calmement. Et j'espère qu'on pourra effectivement maintenant porter ce dialogue auprès de chacune des associations de supporters. On attend le retour ensuite, bien sûr, des supporters. En tout cas, nous, on a fait cette proposition. On a suivi la proposition faite par la Ligue.
Le président des Panam Boys avec Simon Rubin.
Et puis, on va quand même revenir sur ce cocorico.
Hein. Oui.
C'est pas si fréquent. C'est un exploit historique pour le basket français.
La France a été solide dans la tête du début à la fin pour aller chercher le sésame.
Voilà, vous entendez George Eddy, le célèbre commentateur franco-américain avec son célèbre accent, commentateur de Canal+. Il n'en croit pas lui-même, évidemment. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de basket a battu les géants américains. Victoire 89-79. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, eh bien la France est aussi qualifiée du même coup pour les prochains JO de Tokyo en 2020.
C'était un combat rude et intense. En tout cas, la victoire est historique. Bravo à eux. Il y en a un autre qui n'en revient toujours pas. C'est Laurent Sciarra, ancien basketteur international.
Je pense qu'on ne se rend pas bien compte, hein, même nous, acteurs du basket français, je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui vient d'arriver. Mais là, force est de reconnaître qu'on sort une équipe qui est triple championne olympique, championne du monde, en titre. Il y a de quoi être très fier de ces garçons. Et ils ont joué comme des chiens. C'est ce qui les caractérise. C'est un super soulagement pour mon sport, pour le basket. Attention de ne pas se prendre les pieds dans le tapis contre l'Argentine maintenant. Mais là, c'est juste, ça fait plaisir. Tu te dis, enfin, on est là, on existe. Et ces garçons se laissent la chercher. Donc, c'est juste remarquable.
Voilà, c'est juste remarquable. Mais attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis, effectivement. Ouais. La demi-finale dans deux jours, France-Argentine, vendredi à 14h. C'était Laurent Sciarra, joint par Marie Guida. 14h vendredi, entre les grèves des transports et le basket. Ça vaut peut-être le coup, la petite RTT, là, vendredi.
Attendez,
pour,
vous êtes en train de me faire passer un message ?
Oui, peut-être.
Bon, on saura si vous n'êtes pas là, mais ce que vous êtes en train de faire. Hein.
Je rêve. Merci beaucoup, Sébastien. En tout cas, à 19h30, vous êtes là, hein.
Ouais,
assurément.
Je suis obligé.
Merci.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Anissa,
oui,
tenue légère exigée demain.
Oui, tenue légère. Bon, alors attention. Tenue légère pour la moitié sud. Les températures sont en hausse, effectivement, Nathalie, ça fait du bien dans le sud. On va même de nouveau repasser la barre des 30 degrés demain. Il fera 31 degrés demain après-midi à Nîmes, 30 à Brive, 25 degrés à Paris, ce sera très agréable. Si les températures remontent demain, c'est simple, c'est grâce au retour du soleil sur les trois quarts sud. Alors demain, sur le pourtour méditerranéen, en Midi-Pyrénées, dans le sud-ouest, le long de l'Atlantique, dans le Limousin, en Auvergne, en région lyonnaise, dans les Alpes et jusqu'en Alsace, le ciel va être bleu et le soleil va briller demain. Voilà, c'est assez simple. Plus au nord, ça se gâte. En région parisienne, dans les Ardennes, dans les Hauts-de-France, en Normandie, dans le Cotentin et en Bretagne, là, votre journée va débuter sous les nuages, des nuages très épais qui vont vous apporter quelques gouttes le matin, mais au fil des heures, le ciel se dégage et vous aurez droit à quelques belles éclaircies l'après-midi.
Bon, le soleil qui prend le lead.
Oui,
même,
oui, et
retiens.
Ça va durer plusieurs jours.
Merci, Yannissa.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Dans un instant, c'est l'interview politique, évidemment. Et comme chaque soir dans ce studio, bonsoir David Doucan.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité ce soir.
C'est Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Et la rentrée politique du gouvernement se trouve percutée aujourd'hui par le retour du poison des affaires. Le président de l'Assemblée nationale entendu en ce moment par un juge d'instruction à Lille. Et puis le Modem, le parti de Marc Fesneau, le patron de ce parti, François Bayrou, lui aussi entendu aujourd'hui par la police dans une autre affaire bien sûr.
Votre invité donc dans un tout petit instant. Merci David.
Et votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est l'heure de l'interview politique, Nathalie Lévy.
Avec David Doucan et votre invité ce soir, vous recevez Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement.
Bonsoir Marc Fesneau.
Bonsoir.
Alors nous avons appris que Richard Ferrand est en ce moment entendu par un juge d'instruction à Lille. C'est l'affaire des mutuelles de Bretagne, l'enquête qui s'accélère. Le président de l'Assemblée nationale, quatrième personnage de l'État, en ce moment interrogé. Dans la soirée, on saura s'il est mis en examen ou non. Est-ce que vous êtes inquiet ?
Ce n'est pas la question d'être inquiet. D'abord, par nature, et ce n'est pas qu'un effet de manche d'ailleurs de dire ça, je pense qu'il faut être très respectueux du principe de séparation des pouvoirs. La justice fait son travail. La justice poursuit son cours. Richard Ferrand est, à ma connaissance, auditionné. Donc, il répond sans doute à un certain nombre de questions. Et donc, je n'ai pas d'autres commentaires à faire que celui-là. Sinon, je ferai défaut à l'exigence qui doit être la nôtre de ne pas commenter les faits de justice, parce que sinon on pourrait donner le sentiment qu'on essaie de peser sur les faits de justice.
Alors posons les règles politiques dans ce cas. Ne soyons pas sur le terrain judiciaire. Allons-y. Et il y a une jurisprudence baladure pour les ministres. Lorsqu'on est mis en examen, on démissionne. Et d'ailleurs, cette jurisprudence, Édouard Philippe l'a reprise pour ses propres ministres. Est-ce qu'elle vaut, selon vous, pour un président de l'Assemblée nationale ?
Posons les règles politiques. Un problème n'est posé que quand il est devant nous. Donc je ne préjuge pas des faits qui sont devant nous.
Vous pouvez avoir une capacité d'anticipation.
Non, mais je ne préjuge pas des faits qui sont devant nous. Pour les mêmes motifs que ceux que je viens d'invoquer juste avant, je me refuse, au-delà de ce qu'on peut dire sur la séparation des pouvoirs, et peut-être un certain nombre d'éléments, c'est que, je le dis au passage, quand on est auditionné, on est auditionné. Personne n'est au-dessus des lois, mais personne n'est en dessous des lois. Et donc il faut respecter les procédures, les magistrats dans leurs procédures, et respecter aussi les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Richard Ferrand est auditionné. C'est une procédure de justice normale, courante, qui arrive dans un certain nombre de sujets.
C'est pourtant, Marc Fesneau, une question simple. Oui, s'il devait être mis en examen, peut-il rester président de l'Assemblée nationale ?
Vous dites un
c'est
cadre
une question
politique,
de principe.
Vous posez un cadre politique, un cadre de politique fiction. Quand le cas sera plus de la fiction, on pourra à ce moment-là en reparler.
Alors parlons du MoDem, qui lui aussi est dans le viseur de la justice. François Bayrou, le patron de votre parti, a été entendu aujourd'hui par la police. C'est l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires européens qui auraient été payés par le Parlement, mais qui, pour travailler pour le parti. Est-ce que vous maintenez toujours que ce ne fut pas le cas, qu'il n'y a pas eu emploi fictif ?
Mais là, pour le même motif, deux choses à vous dire sur ce sujet-là. D'abord, je crois que François Bayrou et Marielle de Sarnez attendaient ce dialogue et ce dialogue avec les magistrats. Parce que ça fait deux ans, un peu plus de deux ans, qu'un certain nombre d'éléments sont sortis dans la presse. Il n'y a aucun élément d'instruction. Ni vous ni moi n'avons des éléments d'instruction. Et donc, je pense qu'ils attendaient ce moment où ils pouvaient expliquer, répondre à des questions, et c'est le moment dans lequel nous sommes.
Il y a des informations de presse sur l'instruction, des emails qui attesteraient l'existence d'emplois fictifs. Excusez-moi, information de presse.
Information de presse, et je pense qu'on rend service collectivement à la démocratie quand ni les élus que nous sommes, ni la presse, d'une certaine façon, ne vient interférer avec ce qui sont des faits.
Vous vous réjouissez que François Bayrou et Marielle de Sarnez, et Sylvie Goulard,
je pense que c'est bien qu'ils puissent enfin dire ce qu'ils ont à dire. Des choses sur lesquelles ils sont interrogés. Je pense que c'est une chose qui est normale et saine en démocratie.
Est-ce que...
Et en procédure judiciaire, il y a du contradictoire. Et donc, il faut que les uns et les autres puissent exprimer ce qu'ils ont à dire sur les sujets. Et donc, je trouve ça sain. Ça veut dire aussi que la justice suit son cours. Au fond, on nous fait parfois ce grief-là.
On a pu entendre l'opposition dire sur François Fillon, ça allait très vite.
Et la justice suit son cours pour tout le monde. Et donc, mais la justice suit son cours dans son entièreté, c'est-à-dire qu'elle suit son cours aussi dans les procédures contradictoires et dans le respect d'un certain nombre de choses. Et quand on est auditionné, on est simplement auditionné.
Pas question pour vous de vous laisser déstabiliser. La rentrée politique du gouvernement, pour vous, ne doit pas être percutée par un agenda judiciaire.
Pas question de se laisser déstabiliser. Absolument. Et deux, je pense qu'il faut qu'on essaie de se tenir à des principes. Ceux qui nous écoutent, je suis sûr, le comprennent. Si on ne tient pas les principes de séparation des pouvoirs, de respect, de l'indépendance des magistrats, après, ce n'est pas seulement les élus qui sont en cause, c'est le citoyen qui lui-même pourrait être confronté à la justice, qui pourrait avoir le sentiment que nous pourrions faire pression. Et donc, il faut s'en tenir à ces principes et faire confiance à la justice et à ceux qui ont des choses à dire à la justice de s'expliquer.
Alors, passons à un autre sujet, Marc Fesneau. C'est parti. C'est parti. Vendredi noir à Paris, les syndicats de la RATP appellent tous à la grève. 10 lignes de métro interrompues, le RER A et RER B quasiment paralysés, en cause la volonté de réforme des retraites du gouvernement, en particulier la disparition des régimes spéciaux. J'ai une question très simple pour vous, Marc Fesneau. Est-ce que vous pouvez vous engager au nom du gouvernement à ne jamais céder sur ce projet de supprimer les régimes spéciaux, quand bien même la France pourrait être paralysée comme elle le fut en 1995?
Je vais répondre à votre question. Je fais un préambule quand même.
C'est assez pas trop long.
Non. C'est assez fascinant quand même. Au fond, personne n'a de texte. Le Premier ministre, demain, va annoncer avec Jean-Paul Delevoye la méthode qui va être suivie de concertation.
Et le calendrier de la réforme.
Et le calendrier de la réforme. Mais il n'y a pas de texte, ni vous ni moi n'avons un texte.
Attendez.
Jean-Paul Delevoye a donné les éléments techniques de la réforme, et après, on a dit très clairement, puisqu'il y a une affaire de convergence d'un certain nombre de régimes, personne n'a donné des éléments précis de la façon dont nous allions faire converger les...
Il y a une promesse de campagne du candidat.
Il y a une promesse. Mais les régimes spéciaux, ils n'étaient pas complètement fondés sur des choses qui étaient anodines. On dit, le régime des fonctionnaires est un régime spécial. Pourquoi ? Parce que c'est les 6 derniers mois et pas les 25 dernières années. Oui, mais le salaire des fonctionnaires n'est pas le même que pour les salariés du privé. Et deux, ils ont des primes qui ne sont souvent pas intégrées.
Qu'est-ce que vous êtes en train de nous expliquer ? Vous allez renoncer sur les régimes spéciaux ? C'est ce que je comprends, Marc Fesneau.
Non, parce que je vois bien que vous essayez de m'embarquer dans quelque chose.
C'est ce que vous venez de dire.
Non, je dis simplement que ce n'est pas la peine de stigmatiser les régimes spéciaux. Ils avaient leur fondement. Ce qu'on veut, c'est que désormais, pour 1 euro cotisé, on ouvre les mêmes droits. Donc ça, c'est l'objectif à terme. Simplement, il faut faire converger les régimes spéciaux. On a fait un choix plutôt de peu salarier les fonctionnaires en France. Et donc, il faut regarder avec les fonctionnaires, par exemple, comment on fait en sorte que des systèmes de convergence. Et donc,
ça veut dire quoi ? Ça veut dire augmenter leur salaire.
Et si on laissait faire le débat ? Et c'est pour ça que, ne me mettant pas en défaut de ce que je viens de vous dire en préambule, c'est-à-dire, ouvrons le dialogue, discutons et débattons avant d'être dans une espèce de confrontation qui est inutile. Mais notre volonté de réforme, pour répondre à votre question, elle est totale.
La promesse sera-t-elle tenue ?
La promesse du président de la République, c'est une promesse de retraite à points qui permette, pour 1 euro cotisé, d'avoir l'ouverture des mêmes droits. Et la deuxième promesse, c'est d'avoir un système qui soit au fond plus égalitaire et qui permette à un certain nombre de gens, notamment ceux qui ont des carrières hachées, notamment les femmes, d'avoir une retraite qui soit meilleure.
Il l'a dit, suppression des régimes spéciaux. Pourquoi ne pas...
Mais,
assumer cette ambition-là.
Mais ça revient exactement à dire ce que je viens de dire. Simplement, la question n'est pas supprimer les régimes spéciaux. La question, c'est de faire converger des régimes et de deux que pour un euro cotisé, on ait les mêmes droits. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. En même temps, on fait pas la chasse aux régimes spéciaux et à ceux qui en bénéficient d'une certaine façon. Bon. C'est pas ça le sujet. On n'entre pas en débat en stigmatisant les gens en disant... En fait, tu es avantagé par rapport à moi, vous êtes avantageux par rapport à moi.
Beaucoup de Français ont voté pour Emmanuel Macron.
Je vais vous expliquer quelque chose, monsieur Doucan.
Il va mettre un terme à ce qu'il voit comme un privilège.
Autre exemple, monsieur Doucan. Les militaires, ils partent plutôt à la retraite. Pourquoi ils partent plutôt à la retraite? Parce que vous n'envoyez pas en opération spéciale quelqu'un qui a 65 ans. C'est un régime spécial. Faut peut-être qu'on y réfléchisse avant de dire. Donc, il y a besoin d'adapter les systèmes.
Intéressant. Vous nous dites qu'il y a une réflexion possible là-dessus.
Mais il faut réfléchir. On n'enverra pas quelqu'un de 65 ans en opération extérieure dans des commandos. Vous comprenez bien pourquoi. C'est pour ça qu'il y avait ce régime spécial pour les militaires. Et donc la question, c'est la convergence, mais de revenir aussi au fondement du pourquoi il y avait un régime spécial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plus compliqué qu'il n'en a l'air que de dire suppression ou pas des régimes spéciaux. Mais l'objectif qui doit être le nôtre, c'est celui que j'ai décrit.
On a pris du temps sur ces sujets de fond.
C'est important.
Et donc, je ne vous interrogerai pas sur le bazar qui règne entre La République En Marche et le Modem.
Il n'y a pas de bazar.
Très brièvement, vous pensez que vous allez réussir...
c'est normal.
Vous pensez que vous allez réussir à enfin trouver des accords au niveau local?
Au mois de septembre, les élections ont lieu au mois de mars. Je ne suis pas sûr que ceux qui nous écoutent soient totalement dans les affaires municipales. Je pense que dans ces moments-là, il faut dialoguer, essayer de se comprendre, voir le parcours de chacun et essayer de trouver des points de convergence. Et donc, jamais de phrases définitives ou de choses blessantes. J'ai fait plusieurs fois cet exercice. Je sais que parfois, on se laisse embarquer, chacun dans ses parties, par des choses un peu blessantes. Et donc, moi, j'appelle plutôt au fait qu'on débatte et qu'on regarde tranquillement les situations les unes après les autres. L'appel, et on en réglera la majorité.
L'appel au calme pour les municipales. Toujours. De Marc Fesneau du Modem.
Dans ce domaine comme dans d'autres.
Merci Marc Fesneau d'avoir été avec nous.
Merci, merci beaucoup David Doucan avec votre invité ce soir.
Europe 1. Et la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
À 19h30, je vous pose la question au moment où s'ouvre le salon auto de Francfort. Votre voiture, vous l'avez vendue, vous? Est-ce que c'est la fin de la voiture traditionnelle? On regarde ça de près avec nos invités à suivre.
Et vous pouvez bien sûr réagir en direct au 39-21. N'hésitez pas, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h24 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Tous les soirs, on va au plus près de vous, là où l'actualité va se jouer demain. Ce soir, direction Lyon. Bonsoir Jean-Luc Boujon.
Bonsoir Nathalie.
Jean-Luc, vous êtes notre correspondant sur place, Lyon, au lieu de la gastronomie, on va dire traditionnelle. Et pourtant, vous allez nous parler d'un festival qui célèbre la cuisine de rue.
Oui, ce qu'on appelle la street food, ces recettes qu'on peut manger sur le pouce, c'est un vrai phénomène mondial depuis plusieurs années. Et Lyon a créé un festival, le Lyon Street Food Festival, 4e édition demain. Le concept, des dizaines et des dizaines de stands de nourriture rapide dans tous les styles, avec des chefs pour certains étoilés qui se prêtent au jeu, qui cuisinent devant tout le monde. Et ça, Joseph Viola, chef du célèbre bouchon lyonnais Daniel et Denise, aime beaucoup.
On enlève tous les codes de la cuisine, on cuisine devant le client. Là, on est vraiment dans le cœur d'une effervescence de personnes qui arrivent à ce moment-là pour goûter vos plats. Vous partez un peu dans des délires de discussion que vous n'aurez jamais eu dans une cuisine normale puisque les clients ne rentrent pas dans les cuisines.
Ah, pas mal. Alors si je vous comprends bien, Jean-Luc, on peut manger vite et on peut manger bon dans le même temps.
Exactement, on le voit dans chaque pays puisque dans le festival on retrouve des chefs d'Espagne, de Finlande, de Turquie, d'Inde et évidemment j'en passe. Alors pour vous mettre quand même l'eau à la bouche, c'est l'heure, un petit exemple, le mini hamburger à la lyonnaise préparé justement par Joseph Viola.
Il faut prendre un pain brioché, confiture d'oignon, donc un peu aigre doux, et ensuite on va poser dessus du cervelas pistaché, un grand classique de la cuisine lyonnaise, qui va être grillé. On remet par-dessus la cervelle de canut qui vient fondre sur le cervelas, vous mordez dedans. J'adore, j'adore, j'adore.
Mais attendez, c'est interdit de faire ça à 19h25, Jean-Luc. Bon, dites-nous quand même où ça se passe.
Alors, sous la grande verrière des subsistances, un lieu absolument magnifique, habituellement dévolu à l'art. À partir de demain, ce sera beaucoup plus animé, puisqu'en plus de tous ces stands de street food, il y a des concerts en permanence. Je peux vous dire, pour l'avoir testé l'an dernier, que l'ambiance est assez géniale.
Ah là là, je ne sais pas si je dois vous dire merci, Jean-Luc Boujon. Je suis affamé. Bon, vous êtes correspondant européen à Lyon. Allez, on vous dit merci, évidemment.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'actu dans le monde demain, c'est tous les soirs, direction les États-Unis ce soir, avec notre correspondant sur place. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors toute autre chose avec vous, le conseiller sécurité nationale John Bolton, on l'a appris hier, quitte la Maison Blanche. On ne sait pas vraiment si c'est de lui-même ou limogé par Donald Trump, ça dépend vraiment des versions. En tout cas c'est le troisième en trois ans, ça c'est sûr. On va voir avec vous ce que demain ça peut changer, les conséquences. Déjà Xavier, sait-on qui va le remplacer?
Alors, pas encore, il y a des noms qui circulent, comme celui du négociateur en chef avec la Corée du Nord, mais moi je vais vous faire une petite révélation. Mmh. En fait, on sait déjà qui sera le prochain conseiller à la Sécurité nationale.
Ah bon? Bah dites, oui. dites-nous, on veut savoir.
Le prochain conseiller à la sécurité nationale, il s'appelle tout simplement Donald Trump. Et oui, le départ de John Bolton, c'est le départ du dernier à dire non au président américain sur les questions de politique étrangère. Non, on ne peut pas faire venir les talibans à Camp David, surtout à deux jours du 11 septembre. Non, on ne peut pas se montrer aussi complaisant avec la Russie. C'est pour ça que les deux hommes ne pouvaient plus s'entendre. Désormais, Donald Trump est libre de se conseiller lui-même, comme le titre le New York Times. D'ailleurs, le président l'a déjà dit devant les journalistes cette semaine sur l'Afghanistan et talibans. Il n'a écouté que lui-même.
Actually, in terms of advisors, I took my own advice. I didn't discuss it with anybody else.
Donc, en matière de conseiller, j'ai écouté mes propres conseils, j'en ai parlé avec personne d'autre, voilà. Donc, peu importe l'identité du remplaçant de Bolton, en fait, son poste ne comptera plus.
Ouh là là, quand même, Trump conseiller de lui-même, hein. À quoi faut-il s'attendre? Ça va changer quoi pour la diplomatie américaine? On peut se préparer à tout, quand même, hein.
C'est vrai, et pour essayer de deviner ce que va faire Donald Trump, il faut avoir en tête ses motivations profondes. D'abord, il n'est pas du tout interventionniste. Il veut faire rentrer les troupes américaines déployées à l'étranger, il trouve que ça coûte trop cher, que ça sert à rien. Et puis l'ancien promoteur immobilier a une obsession, montrer qu'il est le roi des deals, des négociations. Il veut absolument faire un deal historique avec photo de poignée de main pour la postérité et pourquoi pas un prix Nobel de la paix dans la foulée. C'est pour ça qu'il va à la rencontre de Kim Jong-un sans contrepartie et qu'il ferme les yeux sur ses essais de missiles ces derniers jours. C'est pour ça qu'il laisse quand même la porte entrouverte aux Iraniens. D'ailleurs, il envisagerait de réduire des sanctions pour pouvoir rencontrer le président Rouhani à l'ONU à la fin du mois. C'est pour ça aussi qu'il voulait faire un coup en invitant les talibans à Camp David. Il faut donc s'attendre à d'autres surprises de cet acabit avec un Trump seul aux commandes de la diplomatie américaine.
Tout un programme. Merci beaucoup Xavier Yvon. Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Merci à vous.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir. Le rappel des titres, bien entendu, regardons l'heure, il est pratiquement 19h30, la météo. Puis je vous pose deux questions ce soir, est-ce que c'est la fin de la voiture traditionnelle, comme on la conduit à 4 roues, 19h30, ça c'est la question. La première, 19h45, les musées font leur révolution, il faut réserver, c'est bien ou c'est pas bien?
Le standard vous attend, n'hésitez pas, 39-21 pour réagir en direct, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Et l'exploit des Bleus du basket, les Bleus ont éliminé les États-Unis, la meilleure équipe de la planète, éliminée du mondial qui se joue en Chine. 89-79, les Français ont maintenant rendez-vous avec l'Argentine en demi-finale, ce sera vendredi après-midi. Ils décrochent par la même occasion leur qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Vendredi noir annoncé dans les transports en Ile-de-France, 10 lignes de métro seront totalement fermées, trafic extrêmement perturbé sur les autres et pour les bus, les RER A et B, tous les syndicats mobilisés contre la réforme des retraites. La RATP invite les Franciliens à repousser leurs déplacements. Vous trouvez toutes les prévisions de trafic en détail sur europe1.fr. Richard Ferrand, entendu par les juges, le président de l'Assemblée nationale était convoqué à Lille dans l'affaire des mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait à l'époque. Il est soupçonné d'avoir fait profiter sa femme d'une opération immobilière. Le patron de Boeing annonce un retour graduel du 737 MAX dans les airs. Il évoque une possible levée de l'interdiction de vol. Ce modèle de Boeing, toujours clos et au sol hein, depuis 6 mois, depuis 2 accidents qui ont fait 346 morts. En Grande-Bretagne, nouveau revers pour Boris Johnson. La justice écossaise estime que la suspension du Parlement était illégale. Le Premier ministre va faire appel. Enfin, existe-t-il une vie extraterrestre? Elle fascine toujours cette question. Eh bien, des astronomes ont peut-être trouvé une planète potentiellement habitable grâce aux observations du télescope Hubble. Ils ont détecté pour la première fois de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète. Avancée très prometteuse, disent-ils. Bon, la planète se trouve à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre. C'est pas tout près.
Ça fait du chemin. Merci beaucoup Sébastien. À demain.
À demain.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et la météo, ça s'annonce quand même bien, Anissa.
Oui, c'est pas mal. Il va faire un peu plus chaud demain, surtout dans le sud. Plus de 30 degrés, ça y est, on repasse la barre des 30 degrés. À Nîmes, 31. Hein. Avignon, 30 degrés. Ajaccio, plus de 30 aussi. Brive-la-Gaillarde, 25 degrés à Paris demain. C'est donc une belle journée qui s'annonce. Les températures, elles sont en hausse grâce au retour du soleil demain sur les trois quarts sud. De la Bourgogne à la Méditerranée, le long de l'Atlantique, sur les Alpes et la Corse, le soleil va briller demain toute la journée. Ailleurs, un peu plus au nord, c'est un peu plus compliqué. En région parisienne, dans le nord, la Bretagne, la Normandie, vous aurez beaucoup de nuages le matin, quelques petites gouttes aussi le matin, mais le ciel va vite se dégager l'après-midi et vous pourrez voir le soleil.
Bah c'est bien, on aime ça. Oui.
Tout le monde va être gâté. Voilà.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et ça vous fait réagir, n'hésitez pas, dites-nous quel est votre avis, 3921 sur les réseaux sociaux aussi avec le hashtag Europe 1. Avec deux questions ce soir, Nathalie.
Alors première question Anissa, la voiture est-elle morte? La voiture traditionnelle, comme on l'entend, comme on la connaît, comme on la conduit, on se pose la question à l'occasion du salon de Francfort, mes invités sont installés. Et puis nouveauté dans les musées, faudra réserver. Vous aimez ça? Vous appréciez l'idée? Vous nous dites évidemment au 3921. Et c'est parti, ils sont là dans ce studio. Bonsoir Jean-Christophe Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé automobile. Marc Mortureux, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directeur général de la plateforme automobile PFA. Alors voilà, le salon automobile de Francfort a ouvert ses portes à la presse hier, demain au public. Mais il est, si j'ose dire, méconnaissable. Hein, mis à part Honda, Ford, la plupart des marques non allemandes ont décidé de ne pas venir à cette édition d'un salon qui est pourtant normalement le rendez-vous incontournable il y a encore quelques années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en face d'un tournant. La voiture traditionnelle n'a plus d'avenir. On change d'air.
Oui, alors il y a quand même deux aspects à voir. C'est que les salons traditionnels automobiles sont en perte de vitesse. Ça, c'est pas nouveau. Il y a quand même là peau de chagrin pour ce salon. Vous pourrez en reparler. D'autre part, effectivement, on change d'air quasiment de paradigme. Hein. Je l'avais déjà dit à cette antenne, c'est-à-dire que l'automobile tel qu'on l'a connu, thermique ou pas thermique, aujourd'hui, on n'en veut plus dans les villes. Et c'est ça qui est important. Après, savoir si elle roule avec de l'essence, du diesel, ça c'est, on peut oublier,
c'est pas
on peut dire un trait
voilà.
Dessus, et de l'électrique, c'est sûrement vers là où on se dirige avec des voitures qui seront électriques en ville.
Oui, on tend vers cela, mais c'est embryonnaire pour l'instant. On va y revenir dans un petit instant. Marc Mortureux, quelle lecture on fait quand même de ce qui se passe à Francfort?
Alors, ce n'est pas une surprise. Hein. C'est-à-dire, on sait que les salons, ils doivent se transformer à l'image de la transformation de l'industrie automobile. Mmh. C'est clair qu'on vit en ce moment une période de transformation telle qu'on l'a jamais connue depuis l'origine de l'automobile, il y a plus d'un siècle. C'est vrai qu'on a les transformations, les disruptions technologiques qui sont liées notamment à tout l'agenda environnemental et donc une évolution très rapide aujourd'hui vers le véhicule électrique, véhicule à hydrogène, on pourrait y revenir. C'est des transformations extrêmement profonde pour cette industrie, qui est une industrie lourde, qui nécessite des centaines de milliards d'investissements. Oui. On va avoir des centaines de nouveaux modèles de véhicules électriques, d'hybrides rechargeables. C'est les vedettes, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, de tous les salons qui arrivent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des technologies qui permettent, effectivement, de répondre de façon satisfaisante à certains types d'usages par rapport à ça. Mais on a aussi des transformations considérables d'ordre digital. Hein, enfin, aujourd'hui, une voiture, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Aujourd'hui, en termes de nombre de lignes de code, hein, par exemple, une Renault Espace ou une DS pour prendre des véhicules français, c'est 7 fois plus de lignes de code qu'un Boeing 787.
Lignes de code, vous pouvez traduire ?
C'est-à-dire enfin, de software, enfin, de logiciel. D'accord. C'est-à-dire, c'est bourré d'électronique, c'est maintenant bourré de calculateurs. Et ce n'est qu'un début, parce qu'on va vers du véhicule qui est connecté de plus en plus, qui va causer avec les infrastructures, avec les feux rouges. On va avoir des véhicules autonomes et on va avoir une transformation profonde de nature sociétale vers de plus en plus des logiques de services et non pas simplement de produits.
Une nouvelle ère, donc celle de la voiture électrique. Vous allez nous dire comment, à quel prix, quelles conséquences évidemment dans un petit instant. Avec nos auditeurs aussi, Stéphane, qu'on retrouve dans un petit instant au 3921.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec la question qui vous fait réagir ce soir. La voiture est-elle morte? On parle de vos voitures au 3921, n'hésitez pas, avec vos invités, Nathalie Lévy.
Et oui, la voiture telle qu'on la connaît, qu'on la pratique, qu'on la conduit, est-elle en bout de course? On voit que le système évolue, qu'on est dans une nouvelle ère, avec notamment ce qui se passe à Francfort, là, le salon actuel. Marc Mortureux, Jean-Christophe Lefebvre, vous êtes avec moi ce soir et je me dis... Les constructeurs, ils sont empêchés de toutes parts ou ils ont aujourd'hui une latitude?
Ils ont des contraintes énormes, des contraintes de normes, des contraintes de la société qui ne veut plus de voitures polluantes. On l'a vu et on le voit depuis un certain temps. Il y a quand même une chose qu'il faut souligner par rapport au salon de Francfort, c'est il y a 4 ans, c'était le Dieselgate, avec Volkswagen qui avait menti sur le fait d'installer, il n'était pas le seul, des logiciels qui permettaient de tricher lors des homologations. Ils ont, à cette époque, complètement inversé la machine et aujourd'hui, ils ont présenté une nouvelle entreprise qui s'appelle toujours Volkswagen, mais qui mise tout sur la voiture électrique d'ici peu, quelques années, avec des nouveaux modèles, dont une ID3, ça c'est, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tous les constructeurs allemands présents, mais pas seulement, les constructeurs français sont dans la même direction parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut des voitures électriques.
Sauf que ça a un coût, vous allez me répondre Marc Mortereau dans un petit instant. Stéphane nous appelle de l'Essonne. Stéphane, la voiture électrique, la voiture de demain, indéniablement ?
Ben ouais, certainement. Je pense que ça va passer par une ère de transition où il y aura un petit peu, il y aura de l'hybride, de l'électrique. Et puis, progressivement, je pense qu'on va migrer vers l'électrique. Quand on a conduit de l'électrique, il y en a beaucoup qui ne reviennent pas au thermique parce que c'est doux, ça a de la pêche tout de suite, ça ne vibre pas, ça ne fait pas de bruit. Sauf le bruit de roulement, et à conduire, c'est vraiment très, très agréable.
Ah oui, donc vous faites partie des convaincus, Stéphane. Merci, merci de votre appel. Alors, des convaincus, il n'y en a pas tant que ça, parce que Marc Mortereau, moi, j'ai quand même regardé dans le détail, le prix, il reste l'un des principaux critères dissuasifs à l'achat d'une voiture électrique aujourd'hui.
Alors, le prix, effectivement, reste aujourd'hui supérieur au prix d'un véhicule thermique équivalent. Ça va baisser progressivement. Il y a pour cela des dispositifs d'incitation, ce qu'on appelle le bonus-malus. On va favoriser l'achat de véhicules électriques et on pénalise les véhicules qui émettent trop de CO2. Et d'autre part, à l'usage, le prix de l'électricité aujourd'hui est beaucoup moins taxé que l'essence ou le diesel. Donc, à l'usage, on s'y retrouve. Mais à l'achat, effectivement, c'est plus élevé. Moi, je trouve intéressant le témoignage là, de l'auditeur, parce qu'effectivement, il y a un certain scepticisme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui utilisent un véhicule électrique sont convaincus. Et aujourd'hui, on a essayé de créer un peu toutes les dispositions pour qu'on ait plus d'autonomie. Effectivement, il y a quand même une baisse des coûts. Que progressivement, c'est des véhicules. On va avoir une palette de véhicules, soit 100% électriques, soit hybride rechargeable en fonction des usages. Donc très clairement aujourd'hui, alors qu'on parle du véhicule électrique depuis 20 ans et qu'il n'a pas beaucoup décollé,
mais c'est quand même très embryonnaire.
Les éléments maintenant massifs d'investissement des industriels, les modèles qui vont sortir sont effectivement très intéressants pour le futur, répondent à différents types d'usages. Donc on est aujourd'hui à la veille d'un vrai décollage de ce marché.
Ouais. C'est un peu le boomerang en fait de l'automobile. Juste Stéphane, s'il est en ligne avec nous, Stéphane depuis l'Essonne, vous nous appeliez. Et je crois que cette voiture, vous l'avez achetée d'occasion ?
Oui, je l'ai achetée d'occasion il y a 2 ans.
Et à quel prix ?
7 800 euros.
Ouais,
donc c'est une Zoé de première génération et je fais partie des 80 Français qui ont eu la chance de faire un upgrade de batterie et donc maintenant qui se retrouve qui est passé d'une batterie de 22 kWh à 41 pour 3500 euros, donc ça me fait une Z240 pour pas très cher, pour 11 000 et des poussières, mais c'est pas si cher que ça.
Oui, c'est pas si cher que ça, et en plus vous êtes satisfait. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir contacté ce soir. Juste quand même au global, parce qu'on a parlé effectivement de l'acheteur, du consommateur, mais de l'automobiliste, mais les postes, parce qu'il faut changer, le virage, il se fait pas comme ça. On a des postes aujourd'hui dans l'industrie automobile, et pour passer à l'électrique, ça fait quoi ? Ça fait des coupes ou ça fait des postes en plus ?
Non, il n'y a pas de raison que ça fasse des coupes. Si le constructeur, et c'est bien le cas de Volkswagen, des constructeurs allemands, c'est le cas évidemment des constructeurs chinois et des constructeurs français, il faut une transition, vous le disiez encore là. L'industrie automobile, c'est un investissement, c'est 10 ans. Donc il faut savoir où on va. Les constructeurs ont investi et investiront de plus en plus.
Ils ont anticipé, mais il faut reconnaître que c'est quand même une transition qui va être extrêmement lourde et difficile.
Et qui va générer des coupes, donc.
Parce que malgré tout, les batteries, qui est un élément majeur du véhicule électrique, est fabriqué aujourd'hui en Asie. Que fabriquer un moteur électrique, c'est plus simple qu'un moteur diesel. Donc c'est vrai que c'est une transition qui est complexe et il faut que les constructeurs qui ont beaucoup anticipé là-dessus trouvent d'autres relais de croissance sur d'autres domaines des mobilités, des nouvelles mobilités.
Bah merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous éclairer donc sur ce virage véritablement qui se joue actuellement dans l'automobile. Jean-Christophe Lefebvre, Marc Mortereau, merci à tous les deux.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, la suite, Nathalie Lévy.
On va aller dans les musées dans un petit instant, mais attention, si vous n'avez pas réservé, vous n'entrez pas.
Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Nathalie Lévy, votre grand journal du soir, c'est aussi la culture au sens large tous les jours avant 20h. Et dans la playlist du 18-20, qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Nathalie ?
Le dernier single de la grande Sophie, ça s'appelle Une vie.
Une vie, on n'en a qu'une. Des chagrins, on en a plein. Toi,
Sophie qui sort son nouvel album cet instant vendredi prochain. Elle partira en tournée dans toute la France dès le mois d'octobre avec un passage par l'Olympia. Le 12 décembre, vaut mieux réserver.
Et le prochain titre de la playlist du 18-20, c'est demain sur Europe 1, juste avant 20h. La culture au sens large, avec maintenant Nathalie, les musées et les expositions, il va bientôt falloir réserver.
Mais décidément, il faut réserver partout ce soir. Hein, l'Olympia pour la grande Sophie, avec vous, Diachine Nouda, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Vous êtes notre journaliste culture à Europe 1. Les expos fleurissent en cette rentrée. On a vu évidemment le succès de l'expo Tout en Camon à la Villette. Il y a tellement de monde qu'il y a une petite nouveauté.
Oui, absolument.
L'organisation et de l'entrée du musée.
Oui, oui. Ben pour Bacon, c'est obligatoire maintenant de réserver. Hein, c'est la première fois que le Centre Pompidou le fait. Alors, en raison particulièrement des travaux, pour cette raison-là essentiellement. Mais le Louvre, bien sûr, le Louvre pour Léonard de Vinci, hein, c'est l'expo très attendue qui démarre le 24 octobre. Et là, réservation obligatoire depuis le 18 juin. Il y a déjà plus de 100 000 réservations.
Alors, vous allez tout nous dire sur le Louvre, mais figurez-vous qu'on a fait un petit détour par le Centre Pompidou, justement. Nous allons être en ligne avec Catherine Guillou. Catherine, ça y est, c'est pour la première fois, réservation, système de réservation obligatoire pour cette exposition. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1. Alors, on l'a dit, c'est ouvert aujourd'hui même au Centre Pompidou de l'exposition Francis Bacon. C'est l'une des expos les plus attendues de cette rentrée. Comment ça s'est passé aujourd'hui ?
Alors qu'il est, tout s'est bien passé. On n'a eu aucun problème et notre dispositif que nous avions préparé et mis en place de longue date d'ailleurs a bien fonctionné. Donc je pense que le public est ravi et nous aussi par la même occasion.
Comment ça se passe concrètement ? Comment ça fonctionne ?
Eh bien, la particularité de ce dispositif, de cette décision de rendre l'exposition Bacon horodatée, est liée au fait qu'il y a la concomitance avec ce chantier tout aussi exceptionnel dans lequel s'engage le Centre Pompidou pour rénover son grand escalator que l'on connaît de toujours. Et donc, il fallait modifier complètement les flux et réorganiser l'entrée et les accès du centre. C'est la raison pour laquelle on a estimé que l'horodatage était une solution pour assurer un confort de visite et une maîtrise de la jauge dans les meilleures conditions.
Ouais. Alors, dites-moi précisément, les visiteurs doivent désormais choisir un créneau horaire d'arrivée au moment de l'achat de leur billet, c'est bien ça ? Des créneaux qui s'échelonnent toutes les 30 minutes de 11h à 19h. À peu près 250 personnes environ sont alors laissées passer, c'est ça ? C'est-à-dire que
tout à fait raison.
On est dans quelque chose quand même d'extrêmement verrouillé, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement la possibilité d'improviser.
C'est le principe de l'horodatage, mais non, ça n'est pas aussi verrouillé que vous le dites, dans la mesure où, bien évidemment, quand on fait une estimation de fréquentation, eh bien, on a évidemment des prévisions ambitieuses, mais ensuite on s'adapte au jour le jour en fonction de la réalité de cette fréquentation. Et donc ces quotas dont vous parlez sont ajustés, évidemment, pour faire en sorte que le public rentre, même si la fréquentation évolue. En mieux ou en moins bien que ce qui était prévu.
Ce système de réservation obligatoire, c'est l'avenir pour les grands musées ? C'est un passage obligé, selon vous ?
Pour les grands musées, c'est certainement nécessaire en fonction de la topographie des lieux et de la particularité de l'événement ou de l'exposition pressentie comme très fréquentée. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'imaginer systématiquement. En tout cas, ce ne sera jamais le cas, je pense, au Centre Pompidou. On va s'adapter et on décidera en fonction des expositions et des projets.
C'est ça, en fonction des événements, bien sûr, dans
ces
lieux. Merci beaucoup Catherine Guillot, directrice des publics au Centre Pompidou, d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. L'exposition Francis Bacon, c'est jusqu'au 20 janvier. Vous l'avez compris, vous, auditeurs, réservation obligatoire, allez-y, ça vaut clairement le coup.
Je confirme.
Ah oui. Mais alors, je m'interroge quand même, Diane Chinouda. Oui. Il y a un vrai intérêt, parce qu'il faut tout prévoir, du coup.
Oui, alors en tout cas, pour l'Expo Léonard, il y aura un vrai intérêt parce qu'il y aura un monde fou. Donc, c'est vraiment pour réguler le flux. C'est indispensable aussi pour des raisons de sécurité. En plus, le Louvre, quand on réserve son billet, nous promène, s'engage vraiment à ce qu'on n'attende pas plus d'une demi-heure.
Ah, parce qu'on attend quand même. Attendez,
ça ne sera pas plus d'une demi-heure.
Comme vous y allez.
Sinon, on attendrait peut-être deux heures, vous voyez. 2-3 heures. Non, mais vraiment. Ils l'ont mise en place aussi pour Vermeer au début de l'exposition, car il y avait eu un afflux de visiteurs et c'était tout simplement épouvantable.
La question oui. Pratico-pratique, la réservation est gratuite.
Oui,
pas
absolument.
Pour
non,
autant financier.
Il suffit, voilà, on va sur Ticket Louvre et on réserve un créneau toutes les demi-heures, de 9h à 18h. Il y a les nocturnes. Moi, je conseille d'aller en nocturne. Il y a moins de monde et aussi l'après-midi. L'afflux vraiment de visiteurs au Louvre, c'est le matin. Oui. Beaucoup le matin. Oui. Et donc, on peut absolument le faire très simplement. On peut le faire aussi, même on peut arriver au Louvre, vous voyez.
Et le faire sur place, voilà, sur son téléphone.
Absolument. Bon. Oui, oui.
Rosemée nous appelle depuis Angers. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Rosemée, qu'est-ce que vous pensez de cette innovation, de ce nouveau système ?
Eh bien, écoutez, moi, je pense que c'est nécessaire. Il m'est arrivé de ne pas aller à des expositions qui m'intéressaient, même en étant à Angers, de me déplacer. Et quand j'étais dans la région parisienne, pareil, parce que de savoir que je vais passer 3 heures à attendre et que je vais me trouver dans une salle ou dans un couloir pour déambuler avec une foule compacte, on se marche dessus, on se cogne, et en plus tous ces bras levés qui veulent faire des photos avec le iPhone, le machin, j'avoue que moi, j'ai eu l'occasion des expositions que j'avais envie de voir, de ne pas y aller quand j'ai entendu qu'il y avait foule, ainsi de suite. Je pense que c'est nécessaire. Alors, comme disait la personne qui est intervenue, ça ne sera pas forcément partout pour toutes les manifestations, mais on connaît dans certains musées comme Beaubourg, comme le Louvre ou le Grand Palais, on sait très bien que ce sont des musées qui sont courus, ou alors certaines expositions, on sait que c'est couru.
C'est ça.
Eh bien, de faire réserver, ça nous donne, moi j'apprécierais,
plus de confort.
En ce sens, quand ça va même me donner un certain confort, je vais attendre une demi-heure au lieu de 3 heures, et pour déambuler, pour apprécier l'exposition, ça se passera dans de meilleures conditions.
Merci beaucoup Rosemée de nous avoir appelé depuis Angers, donc qui adoube,
oui,
qui
complètement
apprécie.
Alors d'ailleurs, le Louvre réfléchit actuellement à rendre obligatoire l'accès au musée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, ça sera vraiment que pour l'Expo Léonard, mais sans doute que ça sera un test grandeur nature. Après, moi, je suis allée sur place. J'ai interviewé des visiteurs il n'y a pas longtemps, justement, sur cette question, parce que le Louvre conseille fortement de réserver. Les gens veulent leur liberté, ils veulent pouvoir improviser aussi.
C'est ça.
Absolument. D'autant qu'on peut réserver d'un simple clic sur son téléphone. Et voilà.
Donc, bientôt, il y aura des bornes aussi, alors, devant les musées.
Peut-être. Bah, écoutez, peut-être.
Bon, en tout cas, vous validez. Merci beaucoup, Diane Chénouda, d'être venue nous expliquer tout cela. Les innovations, donc. Et on va se tourner vers Émilie Mazoyer.
Oui, il n'y a pas besoin de réserver.
Pas besoin de réserver. Tous les concerts sont en live avec elle.
C'est ça, et il y a de la place pour tout le monde. Alors ce soir, on va être en mode électro. Pedro Winter, le patron du label Headbanger, qui est le label le plus cool du monde de musique électro. Il se trouve qu'il est français. Il va être ici avec nous ce soir et avec un garçon. Son DJ, producteur électro qui s'appelle Domenico Torti. Il a fait plein de remixes, voilà, notamment celui-ci. Remix de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz a tellement aimé ce remix qu'il l'a mis sur la réédition de son album. Et donc ces deux garçons, Pedro Winter et Domenico Torti, viennent nous parler d'un titre exceptionnel qui est sorti avec Africa Bambaataa.
Oula, merci beaucoup Émilie Mazoyer, on se branche avec vous, on écoute tout ça et on danse. Merci à tous de nous avoir suivis Europe 1 en direct tous les soirs de 18h à 20h. Très belle soirée à tous,
à demain. À demain, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.